toi, aimé par les latéines, par les latéines, aimé.
Attention, c'est mon ballon. Papouka, on est une paix, on est une paix,
Michel Roland, t'as joué là, Michel Roland, paix, on est une paix,
Le j'analyse.
Une équipe, c'est 5 choses. Le temps et le matériel. Qualité des joueurs et le mental. 3, le moyen. 4, le niveau du staff technique. Et 5, l'administration et l'organisation.
Vous savez pourquoi Neymar prend Paris? Paris, c'est une équipe brésilienne. Dans l'histoire du football, le PSG a connu tous les grands joueurs brésiliens, les Rai. Donc Ronaldinho, même, il est passé par Paris. Au moins 70%, ils ont joué dans l'équipe nationale du Brésil.
Nous voulons voir les anciens de nos équipes montrer, essayer un peu de partager leurs expériences avec les nouveaux.
Les interviews.
Et ce qu'il faut savoir avec Mazembe, il n'y a jamais eu de petits matchs.
Notre chère équipe étoile du Kivu évolue très bien.
Je vais me couper à 1000 morceaux pour que Mungano aille jouer encore la phase des playoffs.
Commencer à cotiser au moins 1 dollar par mois.
C'est pour ça que le TP Mazembe est un grand et que nous on a encore un petit, mais qu'on espère être un grand à l'avenir.
Ça va être un match difficile, mais avec un seul résultat qui nous intéresse, la victoire.
Nous avons atteint l'un des objectifs les plus nobles en matière d'encadrement de la jeunesse. Que ce soit du côté de Mungano, que ce soit du côté de Bukavuda, nous sommes parvenus quand même à vendre des joueurs.
Suivi Sport pour tous, le grand magazine de sport sur les ondes de Radio Mind et Léo, tous les dimanches à partir de 10h30.
L'équipe évolue très bien.
Je vais me couper à 1000 morceaux pour que Mungano aille jouer encore la phase des playoffs.
Commencer à cotiser au moins 1 dollar par mois.
C'est pour ça que le TP Mazembe est un grand et que nous on a encore un petit, mais qu'on espère être un grand à l'avenir.
Ça va être un match difficile, mais avec un seul résultat qui nous intéresse, c'est la victoire.
Nous avons atteint l'un des objectifs les plus nobles en matière d'encadrement de la jeunesse. Que ce soit du côté de Mungano, que ce soit du côté de Bukavuda, nous sommes parvenus quand même à vendre des joueurs.
Suivez Sport pour tous, le grand magazine de sport sur les ondes de Radio Mind et Léo, tous les dimanches à partir de 10h30. Sport pour tous, le sport dans toute sa splendeur. La passion.
Et la frappe, elle est splendide, on répète, on quel but exceptionnel, un but extraordinaire de Guy Gandji.
C'est un gol, et c'est un gol, et c'est un gol, et c'est un gol, et c'est un gol, et
attention, c'est mon ballon. Papouka, un but, et but de Papouka.
Michel Roland, t'as joué là, Michel Roland, t'as joué là, Michel Roland,
le j'analyse.
Une équipe, c'est 5 choses. Le temps et le matériel. Qualité des joueurs et le mental. 3, le moyen. 4, le niveau du staff technique. Et 5, l'administration et l'organisation.
Vous savez pourquoi Neymar prend Paris? Paris, c'est une équipe brésilienne. Dans l'histoire du football, le PSG a connu tous les grands joueurs brésiliens, les Rai. Donc Ronaldinho, même, il est passé par Paris. Au moins 70%, ils ont joué dans l'équipe nationale du Brésil.
Nous voulons voir les anciens de nos équipes montrer, essayer un peu de partager leurs expériences avec les nouveaux.
Les interviews.
Et ce qu'il faut savoir avec Mazembe, il n'y a jamais eu de petits matchs.
Notre chère équipe étoile du Kivu évolue très bien.
Je vais me couper à 1000 morceaux pour que Mungano aille jouer encore la phase des playoffs.
Commencer à cotiser au moins 1 dollar par mois.
C'est pour ça que le TP Mazembe est un grand et que nous on a encore un petit, mais qu'on espère être un grand à l'avenir.
Ça va être un match difficile, mais avec un seul résultat qui nous intéresse, c'est la victoire.
Nous avons atteint l'un des objectifs les plus nobles en matière d'encadrement de la jeunesse. Que ce soit du côté de Mungano, que ce soit du côté de Bukavuda, nous sommes parvenus quand même à vendre des joueurs.
Suivez Sport pour tous, le grand magazine de sport sur les ondes de Radio Mind et Léo, tous les dimanches à partir de 10h30. Sport pour tous, le sport dans toute sa splendeur.
ready.
We are ready.
We are ready.
We are ready.
Onze heures six minutes à Bukavu, mesdames, messieurs, ce dimanche 21 juin 2026, c'est un honneur de vous savoir nombreux à l'écoute de Radio Mandeléo. Sport pour tous, le grand magazine de sport sur Radio Mandeléo vous donne rendez-vous, un rendez-vous que nous avons l'honneur de vous produire et de réaliser. Au menu de l'émission de ce jour, le TP Englebert Mazembe décroche le titre de champion de la Ligue nationale de football UNAFOOT 2025-2026. Les Corbeaux ont validé leur sacre samedi 20 juin au stade des Kamalons dans le Lubumbashi en s'imposant avec autorité 2-0 face à Céleste FC dans une rencontre maîtrisée de bout en bout. Les Aigles finissent deuxième et se qualifient pour la deuxième année des suites en Ligue des Champions. Manier Magnon termine troisième et se qualifie pour la Coupe de la Confédération, démontrant la force d'une équipe capable de se surmonter malgré les moments difficiles. Encore une fois, V-Club ne jouera pas l'Afrique la saison prochaine. Quelle évaluation faire de la saison du champion et des qualifiés pour l'Afrique? Réponse dans l'émission de ce jour. Après plus de 5 décennies d'absence pour leur entrée en lice en groupe, les Léopards de la RD Congo n'ont pas déçu face au Portugal mercredi 17 juin à Houston aux États-Unis dans un match plein de suspense. Portugais-Congolais se sont partagés le point du nul. Donc, ni vainqueur ni vaincu et un premier but de la RDC en Coupe du Monde de football FIFA. Historique pour la République démocratique du Congo. Nous reviendrons sur une page de l'histoire avec la participation de la RDC pour la deuxième fois et pour la première fois en 1974 de l'histoire de façon globale de la Coupe du Monde de football organisée par la FIFA. L'appétit vient en mangeant. L'objectif à ce stade est de se qualifier pour le 16e des finales, a déclaré Sébastien Desabre, sélectionneur de la RDC. Est-ce que vous y croyez? Le test se poursuit déjà mercredi matin face au Cafeteros de la Colombie, conduit par Brahim Pluto et Remes Rodriguez. Nous allions plutôt dire Luis Diaz et non Brahim Diaz le Marocain et Rames Rodriguez, ancien du Real Madrid. En Afrique, le premier éliminé est donc la Tunisie qui, malgré l'arrivée de Hervé Renard en sapeur-pompier, a été battue par le Japon en totalisant 2 défaites de suite. Entre satisfaction, déception, nous ferons un bilan de la première journée des Africains et l'entame de la deuxième journée avec notamment le faux pas in extremis hier de la Côte d'Ivoire. Avant la fin de cette émission, nous allons effleurer la page Mercato avec les mouvements des uns et des autres, tout en rappelant qu'au démarrage, nous reviendrons sur l'actualité de la balle orange. Sport pour tous. Le train est en marche, prenez part et nous serons donc contents de vous savoir nombreux à l'intérieur. C'est parti. Merci beaucoup, très chers auditeurs. Nous rappelons, nous sommes dimanche 21 juin 2026. C'est donc un honneur et à la fois un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de Radio Mandeléo. Vous nous suivez dans la ville de Bukavu à travers les 3 communes. Nombreux sont ces auditeurs. Éparpillés à travers la province du Sud Kivu en train de capter la radio, que ce soit sur 88.8 ou 91.7 dans les territoires et sur Internet. Vous avez donc la possibilité à nous écouter en allant, bien évidemment, simplement sur Google ou en allant ouvrir le site de Radio Mandeléo, le www.radiomandeléo.org. Nous vous souhaitons donc un excellent dimanche et surtout bonnes conditions d'écoute. Nous réalisons cette émission avec la participation d'Héritier Buruto qui est présent dans ce studio. Héritier, bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour à vous, Expedi. Bonjour à tous les auditeurs des Radio Mindelo. Bonjour plus spécialement à ceux-là qui affectionnent cette émission Sport pour tous.
L'actualité en majeure partie est dominée par la Coupe du Monde de football. La première journée est terminée. Place désormais à la deuxième journée, mais on va réserver notre temps, notre focus sur la prestation des Léopards de la République démocratique du Congo face au Portugal, d'entrée des jeux en compétition, une cinquantaine d'années après leur première participation.
52 ans pour être plus précis, la RDC n'avait pas à jouer une phase finale de la Coupe du Monde. C'était donc historique pour tous les Congolais, du moins pour ceux de la génération actuelle qui voudraient voir cette équipe nationale la mieux prestée dans cette Coupe du Monde. Ça a été le cas contre le Portugal, même si le plus dur reste à faire parce qu'il y a un prochain match qui arrive déjà le 27 et qui sera plus que décisif pour se qualifier directement au prochain tour de la compétition. Mais il faudra donc réactiver les pistes, il faudra réarmer moralement les joueurs pour qu'ils soient à la hauteur de la Colombie. Mais face au Portugal, on a vu des points positifs qui peuvent nous permettre de continuer à rêver dans cette Coupe du Monde. La pression n'a pas été du tout bonne pour les joueurs, mais ils ont su jouer avec cette pression derrière. Tous les Congolais étaient derrière cette équipe nationale 52 ans après. Il fallait donc non seulement participer, mais marquer ces buts qui est venu donc sauver tous les Congolais qui suivaient ces matchs contre le Portugal. Et ça, quoi de plus normal qu'avoir un match nul contre l'une des meilleures nations du football au niveau mondial. Pourquoi pas l'un des favoris, n'est-ce pas, pour remporter cette Coupe du Monde. Et la RDC a su bien le faire. Et donc, c'est une rentrée réussie pour la RDC. Quitte à voir ce que sera pour la deuxième journée. Mais nous espérons que la RDC pourra faire un très bon résultat contre la Colombie.
Les analystes, journalistes habitués donc de cette émission, Benjamin Sefou, Désiré Koulimouchi, Exaucé Tchoubaka, Lydie Chobolé, mais également Exaucé Tchoubaka et Arcade Tibong, à vous tous, bonjour et bienvenue. Nous recevons à titre particulier Tchemonge Moulaché Gaspard qui est historien. Tchemonge, bonjour et bienvenue.
Bonjour à tous nos co-débatteurs ici et bonjour à tous nos auditeurs.
C'est la première fois que vous prenez part à l'émission de ce jour. Maurice Mirindi, avec double casquette, mais il va intervenir exclusivement comme fanatique, sympathisant de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, congolais. Il a suivi le parcours des Léopards depuis la phase des éliminatoires. Il a été devant sa télévision pour suivre de plus près la prestation des Léopards face au Portugal et il attend à bras ouverts les Léopards face aux Cafeteros de la Colombie mercredi à partir de 4h du matin. Maurice Mirindi, bonjour et bienvenue.
Merci Expedi, bonjour à vous, bonjour aux analystes présents au studio, bonjour également aux fidèles auditeurs des Sports pour tous.
Merci donc à vous pour l'attention soutenue. Très chers auditeurs, vous avez donc la possibilité de nous laisser vos messages sur 097-36-86-844, 097-36-86-844. Vous avez donc la possibilité également de nous joindre via le groupe Sport pour tous sur WhatsApp. Vous pouvez nous laisser votre contribution et nous nous ferons le devoir de les partager à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Nous allons, comme l'avons dit tantôt, commencer cette émission avec le championnat urbain de basketball de Bukavu. La saison se poursuit et les équipes sont en mouvement. Nous avions suivi la prestation tantôt et nous sommes revenus sur le démarrage de la compétition pour les uns et les autres. Nous avions fait un focus, par exemple, sur l'équipe de Kabono qui marche sur l'eau. Nous avons évoqué l'équipe de Mindeléo. Nous avons eu le temps de décortiquer l'entame de la compétition de l'équipe d'Amibek et en ce moment, nous revenons d'abord sur certains matchs qui se sont joués hier à Bukavu. Il faut préciser que les Hirondelles ont perdu devant J Volontaire en deuxième division avec pour MVP de la rencontre Luango Chris. Donc le championnat se poursuit sans deux ans parés, que ce soit au stadium de l'ISP Bukavu comme au stadium de Vamaro. Et Ambassador a perdu devant Wonderful sur le score de 36 à 40 avec pour MVP de la rencontre Mboyo Lokofe. Et nous revenons sur un autre match. BC Caviar Junior s'est imposé devant Gorillas sur le score de 67 à 50. La compétition se poursuit aujourd'hui, dimanche 21 juin 2026. Il était prévu à partir des 10h la rencontre de la deuxième division entre le BC Bold Junior et le BC Kieba. Et Wonderful en découdra avec le BC Titan Junior, toujours pour le compte de la deuxième division à midi. Ce sera au stadium de Vamaro sur avenue Patrice Emery Lumumba, en commune d'Ibanda. Nous revenons toujours sur le programme. Aujourd'hui, dimanche 21 juin, pour le camp de la deuxième division, au stadium de l'ISP Bukavu, le BC A4C affronte le BC Zeking Junior en deuxième division. C'est à partir de 10h que la rencontre devait démarrer. Et à midi, chez les dames, Hirondelle en découdra avec le BC Bold. À 14h, place au match entre le BC Wonderful et le BC Caviar chez les dames. Et pour clore la journée, en deuxième division, l'on remarque que le calendrier a donné de la place au match de la deuxième division aujourd'hui. Le BC, les Hirondelles, retrouvera le BC Caviar Junior. Désiré Koulimouchi, c'est quand même très important de rappeler cet élément. La deuxième division est en valeur depuis quelques années. Certaines équipes ont vu le jour et elles encadrent les jeunes déjà à partir du bas étage pour leur permettre d'éclore leurs talents et de rejoindre la première division. Et nous constatons que dès le démarrage, les rencontres sont programmées et le week-end d'aujourd'hui réserve plus de place aux matchs de la deuxième division.
Et donc, pour répondre à la question, je le disais déjà, étant membre de l'entente urbaine de basketball de Bukavu, pour le premier mandat avec le comité de Madame Rachel, je vous avais dit que notre plus grande réussite, c'était le fait d'avoir créé cette deuxième division, parce que c'était en tout cas pour lancer la relève du basket. Et on sent que la mayonnaise est en train de prendre. On découvre de nouveaux talents presque chaque jour, chaque année. Et on sent que le basket est en vogue. Le basket du Sud Kivu reste en vie grâce à cette deuxième division. Il y a 3 ans comme ça et nous avons déjà des joueurs qui ont commencé en deuxième division et qui étoffent déjà l'ossature des grandes équipes. C'est pas le BC Maïndéléo qui va me contredire. Je crois 40% de l'effectif de Maïndéléo c'est constitué des jeunes issus de l'académie Keba de l'ISDR avec le coach Bobby Nawich. Donc cette deuxième division a porté ses fruits. Et pour les auditeurs, la raison pour laquelle aujourd'hui est mercredi, nous n'avons que le match de deuxième division, d'ailleurs depuis hier samedi, c'est parce que la phase classique en première division a pris fin le week-end passé et que nous comptons entamer la phase de 6 déjà. Je parle du basketteur, ouais.
Nous révélons déjà, le verdict est déjà connu. Les 6 premières équipes qualifiées pour la phase des 6 ont déjà validé leurs billets et peuvent désormais se concentrer sur la suite de la compétition. D'abord, chez les garçons, il faut dire que Kabono a terminé donc à la première position avec 18 points. Le BC Maïndéléo vient en deuxième place avec le même nombre de points, suivi d'Ami Bek à troisième, 17 points. Caviar occupe la quatrième place avec 17 points. L'équipe de Bukavu United se pointe à la cinquième position avec 17 points. Et la formation des Kings ferme la marche, donc se retrouve à la sixième place avec 16 points.
Voilà, les 6 équipes qui sont déjà qualifiées pour la phase de 6, qui débute la semaine prochaine. L'entente urbaine de basket de Bukavu s'est décidée également de jouer en phase de 6 pour la deuxième division. Donc il faudra clôturer également la phase classique à partir de mercredi pour avoir les 6 premières équipes qui vont compétir pour cette nouvelle phase. Chez les dames, la phase classique également se termine aujourd'hui. Les dames, vu que nous n'avons que 5 équipes, donc on n'aura pas de phase de 6 pour les dames. Donc ça sera directement en phase de play-off. Donc il y aura une trêve
phase à
4. Donc il y aura une trêve déjà, ouais, une phase à 4. Il y aura une trêve pour les dames pendant la phase de 6, en attendant la phase de play-off ou phase de 4 à l'entente de basketball de Bukavu. Donc j'encourage déjà le public à prendre goût, à se rendre au terrain de l'ISP. Aujourd'hui, il y a que le terrain de l'ISP qui sera considéré. Deux matchs de dames, deux matchs de deuxième division et le mercredi 24. La phase classique se clôturera et on va se projeter déjà si tout va bien, je crois, à la phase de 6. On débute la phase de 6 et pendant la phase de 6, je crois il y aura aussi une trêve pour le tournoi Interville qui est une exigence fédérale. On attend les informations, mais si tout se confirme, pendant la phase de 8, il y aura une interruption d'abord pour ce tournoi Interville et ensuite on pourra relancer la phase de 6 qui prendra 2 semaines parce que on pourra jouer samedi, dimanche et mercredi. Et déjà que il y aura une ronde pour toutes les équipes. Il n'y a pas une clé, le 6e jeu, le 4e, non. Les équipes vont faire le tour de toutes les équipes. Donc, il y aura 5 journées maximum. Et après cette 5e journée, ce sera donc la phase de play-off. Et on s'approchera juste vers la fin de championnat de l'entente urbaine de basketball de Kavu, qui reste en championnat des résiliences et en championnat qui a finalement tenu toutes ses promesses.
Bendy, est-ce que ce classement vous surprend? Le fait de savoir que Kabono finit à la première position et que la suite consacre la deuxième place de Maendeleo, la troisième place d'Amibek, la quatrième de Kavia, la cinquième pour Bukavu United et la sixième place pour The Kings.
Non, ce classement ne me surprend absolument pas. Je le disais déjà depuis le début de la saison. Kabono était pour moi l'équipe la plus outillée, l'équipe la plus armée, l'équipe la plus nantie pour aller chercher les titres. Et ils l'ont prouvé sur les terrains. Ils ont fait un parcours presque sans faute. Ils ont perdu in extremis face aux jeunes des Kings, qui est pour moi l'équipe révélation de cette saison. Ils ont également perdu face à Maendeleo, qui a été une équipe très solide cette saison. Donc bref, ça ne me surprend en tout cas pas du tout. Le classement a été respecté, l'ordre a été respecté, la logique a été respectée. Les équipes qui se sont bien préparées ont fini en tête du classement. Il y a peut-être les grands comebacks, c'est Amibek qui a très mal commencé la saison, mais au fil du temps et avec les renforts du jeune, pour moi les meilleurs joueurs cette saison, Albert Oumoumbou et l'autre, je pense, c'est
Kouzma.
Non,
Amibek.
Amibek.
Oupal.
Oupal, voilà, avec ces deux renforts. Amibek a repris vie, Amibek s'est refait une santé et ils ont finalement retrouvé leur place. Et ce n'est que logique de voir ces 6 meilleures équipes de cette saison finir aussi première place.
Alors, quand est-ce que c'est prévisible de voir le changement de la hiérarchie en phase de 8? C'est-à-dire la phase de 6, en voyant par exemple le 6e prendre la première position ou voir Kabono perdre la première place et consacrer peut-être la remontée au classement de Caviar ou disons de Maendeleo. Comment vous voyez cette phase à 6?
Oui, c'est possible parce que c'est une autre étape de la compétition, ça n'a rien à voir avec la phase classique. Donc, mais il faut signaler une chose, c'est que moi je voulais souligner, c'est la saison que réalise Kabono, surtout avec les jeunes Alvin sur les bas. Je pense qu'on en parle peu, je ne sais pas si parce que c'est un garçon comme nous, mais franchement la saison qu'il a réalisée avec tout ce qu'il pouvait avoir comme effectif côté Kabono, c'est énorme. Surtout de la part d'un jeune qui entraîne, je pense, pour la première fois en première division, parce qu'on se rappelle que la plupart des temps qu'il a passé du côté de l'Ebabouk, il était comme un entraîneur à jouer chez Caviar. Et puis après, il est arrivé à ce moment-là où il fallait qu'il prenne lui-même la responsabilité de toute une équipe qui est Kabono, et qui parvient quand même à finir premier au classement provisoire. Ils vont jouer la phase des 6. En face, il y a des équipes comme Maendeleo qui s'est renforcée d'ailleurs, comme le soulignait Benjamin. Et après, on va voir ce que ça va donner, mais c'est déjà quelqu'un qui a compris ce que ça fait de finir premier. Il a perdu des fois face à Maendeleo, et c'est faux pas qu'il a réalisé face à l'équipe que moi aussi je considère comme l'équipe révélatrice de cette saison du côté de l'Ebabouk. Mais franchement, la saison qu'ils ont réalisée, c'est quelque chose à féliciter avec les maigres moyens qu'ils ont. On sait qu'il y a des équipes qui ont beaucoup plus, qui sont mieux outillées plus que Ekoute et Babouk, et qui n'ont pas fait les mêmes parcours. Et voilà, c'est quelque chose d'encourageant. On va suivre de près cette phase décisive, on verra ce que ça va donner. Mais comme vous le disiez, je pense que la hiérarchie peut basculer d'un moment à l'autre, surtout qu'il y, a des, il y aura probablement des renforts de part et d'autre.
Voilà. Désiré, vous attendez à des surprises?
Surprise.
Ça sera la même copie, récopie en phase de 6?
Pas vraiment. Mais avec ce championnat, on peut s'attendre à tout, hein. Moi, je le comparais à la Prima League à cette saison, parce que il faut signaler que le BCZ Kings a battu les Dégéants. Ils ont commencé dès la deuxième journée par infliger la première défaite au BC Amibek. Ensuite, à la fin, je crois, de la phase de 6, ils ont également battu le BC Kabono. C'est vrai, il faut rentrer dans le contexte, mais l'histoire est têtue, l'histoire est écrite en lettres d'or en faveur de cette équipe de The Kings. Peut-être qu'ils peuvent être poussés et se sublimer, c'est dire on l'a déjà fait. Et comme disait Youssoufa, si tu l'as déjà fait une fois, alors tu peux le refaire. Ils peuvent se dire, wow, on va le refaire, on a battu Amibek, on peut battre Amibek de nouveau, The Kings également, Kabono, et le refaire. Mais ça sera très 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 compliqué. Nous connaissons bien le basket, d'ailleurs le sport. On parlera de la Coupe du Monde autour, vous savez, en phase à élimination directe. C'est là que les grands sortent leurs griffes, et c'est là qu'ils, en tout cas, prouvent leur grandeur. Donc ça sera très compliqué pour les outsiders. Je vois Mayen Delio continuer à se renforcer. Je vois Amibek s'installer définitivement. Peut-être qu'il y aura de BC Bukavu United également, qui est en train de grandir, qui est en train de mûrir. Le BC Caviar, je ne sais pas, ils peuvent également se renforcer et jouer quelque chose. Parce que pour cette phase de 6, il faudra éliminer deux équipes. Pour n'en garder que 4 pour la phase de play-off. Et visiblement, ce sera peut-être le BC The Kings et le BC Bukavu United, peut-être, qui prendront la porte, on ne sait pas. Et la phase de play-off pourra peut-être opposer. Non, je ne vais pas classer, mais quand même, Amibek, Maïdeleo, Caviar et Bukavu United, voilà, je crois. Il y aura pas, donc je crois qu'il y aura pas assez de surprise. Il y aura pas assez de surprise. Il peut y en avoir, mais en tout cas sur papier là, je vois pas, ça ne saute pas
au point de changer la hiérarchie. On n'aura pas,
mais il y en aura presque pas.
Voilà, merci beaucoup. Exocet, vous étiez parmi les rares à avoir annoncé donc la bonne saison de Kabono, et cela se concrétise sur le terrain. Et
effectivement, parce que en voyant leur début de saison, on pouvait se dire que c'était une équipe ambitieuse et qui peut-être visait grand cette saison, surtout lorsqu'on disait que ouais, il y a certaines équipes qui avaient déjà perdu certains de leurs athlètes qui sont partis jouer à un très haut niveau de l'autre côté, pour certains toujours au pays, pour d'autres en dehors du pays. Donc ils se sont dit peut-être que c'était leur année aussi, et avec la jeunesse qui est là, bien évidemment ils sont en train de réussir à conquérir ces championnats, même si pour cette première partie de saison ils sont premiers, mais l'étape qui arrive sera une autre partie, et du coup je me dis ils doivent faire c'est l'étape la plus importante maintenant, parce que là il y aura Mayen Delio certainement qui vient définir deuxième et qui voudra à tout prix aller prendre la première place.
C'est eux qui sont plus en danger, parce qu'eux, on sent qu'ils sont sur une pente, je dirais, descendante, alors que les autres sont sur une pente un peu ascendante.
Effectivement, donc, c'est pour laquelle danger, j'ai dit que c'est la partie la plus importante de leur saison, c'est voilà, la partie qu'il faut,
c'est moi qu'il faut confirmer.
Effectivement, parce que ceux qui commencent à venir également, ceux qui commencent à prendre le goût de la compétition, ça peut jouer en leur défaveur après.
Sans transition, nous parlons football. Au terme d'une saison marquée par des doutes et des remises en question, le TP Mazembe a répondu de la plus belle des manières en décrochant le titre de champion de la Ligue nationale de football INAFOOT 2025-2026. Les Corbons ont validé leur sacre samedi au stade de Kamalondo à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, en s'imposant avec autorité 2-0 face à Céleste dans une rencontre maîtrisée de bout en bout. La dernière journée des playoffs de la INAFOOT a offert un scénario à couper le souffle entre un TP Mazembe fidèle à son ADN de conquérant et un FC Les Aigles du Congo accrocheur jusqu'au bout. Le titre s'est dessiné dans une atmosphère de tension permanente comme si le championnat refusait de livrer son verdict trop tôt. Mazembe impose sa loi dès les premières minutes face à Céleste. Les Corbeaux n'ont pas perdu de temps pour rappeler leur statut. Les Corbeaux ont pris le contrôle du match avec une autorité presque naturelle, installant leur rythme et leur pressing dès les premières phases de jeu. Il faudra cependant attendre la 20e minute pour voir les verrous céder une main dans la surface des chérubins, offre un pénalty aux hommes de Lubumbashi. Marc Diouf ne tremble pas, son exécution est froide, précise, presque clinique. Mazembe prend l'avantage sans forcer le destin, mais en l'apprivoisant. Face Céleste FC subit sans véritable réponse offensive, le club de Mbandaka se heurte à une défense bien organisée, compacte et disciplinée. Bongeli régale en patron, Mazembe accélère après la pause. Au retour des vestiaires, le match change définitivement de visage. Entrée en jeu à la suite de la blessure de Patrick Mongoulou, Faverdi Bongeli va rapidement marquer les esprits. À la 49e minute, le jeune ailier élimine ses adversaires dans une percée pleine d'assurance avant de déclencher une frappe lourde qui termine sa course au fond des filets de Moutima Jonathan. Mazembe double la mise et prend une option sérieuse sur la rencontre. La suite ressemble à un siège. Les Corbeaux multiplient les occasions mais sans réussir à alourdir le score. Bingi Bello, Tchèque Fofana, Satala Sani et Elie Ntumba butent tour à tour sur un manque de réalisme qui aurait pu coûter plus cher dans une autre configuration. Mais Mazembe gère, contrôle et verrouille. Le métier fait la différence. Les Aigles du Congo mettent la pression en ouverture, en levée de rideau. Les Aigles du Congo avaient déjà envoyé un message clair. Face au CS de Moscou, les Samouraïs ont décroché une précieuse victoire 2-1 dans un match longtemps indécis. Moins tranchant en première période, les Aigles ont accéléré au retour des vestiaires. Tony Talas y ouvre le score en reprenant au premier poteau un ballon parfaitement négocié donnant l'avantage aux siens. Mais Don Bosco ne lâche pas dans une deuxième période plus équilibrée. Molindo Mbala surgit en opportuniste pour remettre les deux équipes à égalité. Un but partout. Nous sommes à la 68e minute. Voulais-je dire, le match bascule alors dans une fin de rencontre sous haute tension. Les Aigles pensent reprendre l'avantage à la 78e minute sur une réalisation d'Eli Kitobo, mais les buts refusés pour un hors-jeu litigieux. Le tournant du match reste dans toutes les têtes. Fiston Mbuyi tranche dans les derniers instants alors que Don Bosco pousse pour renverser la situation. Les Aigles de Kinshasa frappent au moment les plus cruels. À la 86e minute, Fiston Mbuyi déclenche une frappe pleine d'autorité dans l'axe et scelle le sort de la rencontre. Les Aigles du Congo s'imposent 2-1 et confirment leur solidité mentale dans un match où tout pouvait basculer. Et en fin de compte, Mazembe donc finit à la première position. Les Corbeaux fidèles à leur expérience, le TP Mazembe a su faire parler son efficacité. Les Aigles du Congo, eux, ont rappelé qu'ils ne sont plus des simples outsiders, mais une force capable de bousculer la hiérarchie. Eric, est-ce que vous attendez à ce sacre du TP Englebert Mazembe au vu de la saison générale des Corbeaux, notamment dans la phase classique et leur entame de la phase de play-off?
Oui, c'était prévisible depuis le début de la saison. Ils ont aussi bien joué leurs cartes. Ils ont d'abord fait partie Mamadou Lamine Ndiaye. Ils ont recruté des joueurs capables de renverser la vapeur dans cette compétition. Depuis le début, j'ai comme l'impression qu'ils ont appris de leurs erreurs parce que, vous savez, la saison passée, Mazembe n'a participé à aucune compétition interclub de la CAF et c'était un coup dur pour ce club qui, chaque saison, était soit en Ligue des Champions, soit en Coupe de la Confédération, mais beaucoup plus en Ligue des Champions. Et la saison passée, ils sont vraiment passés à côté de leur saison. Beaucoup de matchs perdus, que ce soit à Lubumbashi ou à Kinshasa. Et cette saison, ils ont mis en place un mécanisme pour gérer leur effectif. Ils ont amené un nouvel entraîneur, il y a une staff technique qui est arrivée, de nouveaux joueurs sont arrivés. Et Mazembe a aussi bien géré ses recrutements, ce qui a permis aux Corbeaux d'être là où ils sont aujourd'hui. Donc c'était vraiment prévisible par rapport à ce qu'ils ont. C'est vraiment à l'image de leur début de saison. Après, on le disait encore ici, ils savent que Don Bosco, c'est l'autre équipe de Mazembe. Pratiquement, quand vous avez Don Bosco, vous sécurisez déjà 6 points en phase des play-offs. Et
les Aigles n'ont pas réussi à battre Don Bosco en aller.
Voilà, c'était une stratégie.
C'était le concurrent direct.
Vous l'avez bien vu.
Même avec le.
Voilà, vous l'avez bien dit. Don Bosco a joué vraiment les troubles faits déjà dès la phase aller.
pour un peu débaliser les chemins du sacre de Mazembe. Et au retour, Mazembe a su faire l'essentiel. Ils ont pratiquement presque gagné tous leurs matchs à domicile, sauf le match contre Maniema Union, c'était les faux pas à domicile. Heureusement qu'ils ont su bien gérer la fin de cette saison pour décrocher le sacre. Donc pour moi, c'était prévisible et c'est pratiquement les retours de Mazembe. Mais là, le plus dur arrive. Il faut bien négocier la prochaine Ligue des Champions. Ça ne sera pas facile parce que devant des équipes comme Mamelodi Sundowns, qui est d'ailleurs le vainqueur, les champions en titre, ça va être très très compliqué. Mais moi, je pense que si Mazembe remet en fait cette même politique qu'elle avait depuis un moment, vous prenez les joueurs qui ont évolué au sein de vos centres de formation, vous y ajoutez quelques joueurs d'expérience, je pense que Mazembe est vraiment de retour.
Lydie, est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est le retour du géant ou il s'agit d'un simple sac ordinaire, notamment pour une équipe de Mazembe habituée à gagner la Linafoot?
Non, honnêtement, je passais, je l'ai dit encore, parce qu'on attendait Mazembe un peu plus dans cette compétition, surtout que, comme vous venez de le dire, c'est Mazembe, une équipe qui n'a pas été en Afrique la saison dernière. Je pense que Mazembe est en train de renaître. Parce que au vu la saison qu'ils ont fait depuis la phase classique, jouer cette phase de play-off avec beaucoup de matchs gagnés, je pense que Mazembe est en train vraiment de retourner sur la scène nationale du football congolais.
Exaucé, est-ce que nous pouvons nous attendre à un bon parcours de Mazembe en compétition africaine interclub et plus précisément en Ligue des Champions? Est-ce que Mazembe a des armes valables pour aller concurrencer les grands d'Afrique tels que les Mamelodi et consorts?
Ah oui, pourquoi pas? Parce que quand vous parlez des grands d'Afrique actuellement, vous allez voir que vous-même, vous n'avez cité que Mamelodi. C'est-à-dire qu'actuellement, ça fait 2 ans que Al Ahly et KO, les Wydad Athletic Club de Casablanca, c'est en Coupe de la Confédération. Pourtant, leur place, c'est en Ligue des Champions. C'est-à-dire que le niveau aussi a baissé. Actuellement, on parle que Mamelodi et quelquefois à Pyramide, l'AS FAR qui a atteint également la finale cette saison. Et donc, avec Mazembe que j'ai vu cette saison, ils peuvent aller inscrire leur nom parmi ces équipes-là.
Pour vous, quelles sont les forces de ce Mazembe?
Le collectif et surtout cet entraîneur qui sait bien gérer son équipe, parce que Mazembe a, je crois, une quarantaine de joueurs et il sait tous les gérer. Sur chaque poste, il y a au moins 3 joueurs, 3 bons joueurs. C'est vrai, il n'y a pas des très grands noms, chez Mazembe, mais il y a des très bons joueurs. À chaque poste, il y a au moins 3 et l'entraîneur, il sait les gérer. Parce que cette saison, Mazembe, c'est 44 matchs pour 32 victoires, 8 matchs nuls et 4 défaites. C'est-à-dire qu'en 40 matchs, Mazembe n'a perdu que 4 fois. Donc, vous allez voir que Mazembe a inscrit, je crois, une 80aine de buts comme ça. Et le meilleur buteur, il n'a que 16 buts dans cette équipe. C'est-à-dire que tout le reste des buts, ça appartient à d'autres joueurs, notamment le gardien lui-même qui a inscrit 6 buts. Vous imaginez 6 buts pour un gardien de but, c'est vraiment exceptionnel.
C'est le pénal, il faut les signaler.
Effectivement, c'est lui le premier tireur de l'équipe. Il finit avec 6 buts parce que s'il les loupait, il n'aurait pas les 6 buts. Ça, donc, c'est ça, les collectifs, c'est ça la force de ces Mazembe-là. Et surtout cet entraîneur qui a réussi à gagner mon cœur, moi, personnellement. Parce qu'après le départ de Lamine, on se disait, le nouvel entraîneur qui vient d'arriver, il n'a pas de palmarès, il aura besoin de beaucoup de temps pour s'adapter. Mais il a été là, je le vois souvent dans des entraînements de la KFA pour essayer un peu de regarder des jeunes qui peuvent aider cette équipe. Et franchement, c'est lui la force, la première force de cette équipe et ces collectifs-là.
Arcade, est-ce que vous êtes de cet avis? Est-ce que vous croyez que c'est le retour réellement du géant en Afrique?
Non, je crois que c'est très tôt de l'affirmer, comme mon jeune frère Exaucé, qui est d'ailleurs un fervent fanatique du type Mazembe, il faut le dire.
Donc il s'exprime en fanatique.
C'est pas un peu fan de Mazembe chez lui, c'est pas un membre de sa famille.
Ah, ok.
Mais c'est pas un peu cher.
C'est très important de le signaler ainsi. C'est très tôt de le dire ainsi, parce qu'on sait que Mazembe a encore beaucoup de choses à franchir pour qu'on espère retrouver les Mazembe qu'on a connus dans les années passées, qui étaient partis titoyer, qui partaient titoyer des grands clubs en Ligue des Champions de la CAF. Pour moi, c'est très tôt de les dire, parce qu'on sait que on sait d'abord comment Mazembe devient champion. C'est avec des équipes serres comme Don Bosco qui Mazembe se permet de faire tourner l'effectif face à Don Bosco, parce qu'ils savent que c'est leur équipe. Ouais. Et Don Bosco qui joue les troubles faites, donc qui part chercher les Aigles du Congo, Veklev, au détriment des Mazembe. Donc, pour moi, Mazembe d'abord, c'est le champion.
Mazembe gagne sa confrontation directe contre les Aigles. Qu'est-ce que tu dis?
Oui, il gagne sa confrontation. Mais il faut rappeler quand même que c'est pas un champion qui a fait rougir un peu sa colère, parce que voilà, c'est un champion qui a perdu certains matchs, c'est notamment face à Loupopo.
C'est ça que j'essaie d'expliquer ici. Ce n'est pas encore les Mazembe qui marchaient sur tout le monde. On a compris que même pour être champion, il fallait compter sur des équipes sœurs comme Don Bosco.
Et la mauvaise performance de certains clubs comme 20
comme
clubs.
Comme les Aigles également. C'est ce que je voulais signaler.
Comme Mazembe, toujours compté sur Don Bosco.
C'est très tôt de dire qu'on a les TP Mazembe des années passées qu'on a connues. Et à mon avis, ils ont encore beaucoup de choses à faire pour qu'on retrouve encore peut-être Mazembe dans les derniers carrés de la Ligue des Champions de la CAF. Et ça ne peut pas passer forcément par l'équipe qu'on a vu cette
année. Merci beaucoup.
Ce n'est pas cet angle-là qu'il faut voir, c'est ça que de Mazembe, sinon on ne suit pas le football de la même façon. Voilà. Mazembe a mérité son sacre, c'est tout. Ce n'est pas parce que Vecleb est en effort, mais ou quoi, non.
Non, parce que la question était celle, de savoir, est-ce qu'il s'agit du retour du géant? Le géant, c'est-à-dire ce club de Mazembe qui a marché sur tout le continent africain. C'était ça sa question, et il a nuancé en disant que c'est un Mazembe qui a gagné, mais
On ne peut pas évaluer si c'est le retour de Mazembe sur le continent africain, parce que Mazembe n'a pas encore affronté les équipes en Ligue des Champions. Mais si on s'élimine sur ce qu'ils ont fait dans les championnats, parce que pour être à un certain niveau en Ligue des Champions, il faut commencer par les prouver au championnat local. Et ils ont fait. C'est l'unique, je crois, équipe qui n'a pas perdu contre les Aigles. Les Aigles étaient parmi les meilleures formations de cette année en Lina Foot. Ils ont fait match, je crois, à Kinshasa. Ils ont bâti les Aigles à Lubumbashi, si je ne me trompe pas.
Oui, oui.
Alors, ils ont bâti avec le club à Lubumbashi. Ils ont fait match à Kinshasa.
C'est pas également l'unité de
Il n'y a que Manier Maïnion. Non, je dis ça parce que c'est
ils ont perdu à domicile face à Manier.
C'est l'équipe en forme.
Je suis d'accord.
Les Aigles sont l'équipe vraiment en forme en termes d'organisation, en termes d'architecture, en termes de talent. Cette saison, ils étaient tout fait, tout flat.
Parce qu'on ne va pas évaluer Mazembe sur seulement la phase de play-off. S'il faut prendre toute la saison, on va comprendre qu'il y a eu des moments des hauts et des flottements.
Comme tout club, parce que pour le moment, si on essaie un peu d'évaluer la saison dernière de Mazembe, cette saison, on sait qu'il y a une certaine différence. Parce que cette fois-ci, Mazembe n'a pas trop perdu comme la saison dernière. Et puis, il faut dire également que c'est très, très positif. Moi, je pense qu'on ne peut pas vraiment évaluer Mazembe parce que les adversaires qui ont affronté Mazembe ont été en baisse. Parce que même le Paris Saint-Germain,
ils ont perdu certains matchs. Voilà, héritier.
Donc je disais pour renforcer ce que mademoiselle Lydie a dit, on ne peut pas être au top tout au long de la saison. Sans nul doute qu'il y a des matchs qu'on peut perdre. Et c'est peut-être à l'image des joueurs, parce que c'est quand même une compétition, on ne joue pas contre des faibles équipes. Mais moi, je pense que Mazembe s'est reconstruit. C'est ça, je crois, c'est qu'on peut dire. Ça s'est reconstruit depuis le début de cette saison. Ça a commencé depuis la saison passée, ça n'a pas marché. On a changé un peu les philosophies. Et je me rappelle d'ailleurs qu'à un certain moment, Héritier Ndoula est intervenu dans cette émission. Il nous a dit, nous sommes en train de préparer quelque chose pour remettre Mazembe au devant de la scène, que ce soit au niveau national, même au niveau continental. Je crois qu'ils sont sur le bon chemin. Mais là où je suis d'accord avec Arcade, il faut maintenant poursuivre sur la même lancée et l'éprouver quand on va jouer la Coupe d'Afrique.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour désirer ramener Mazembe au summum, c'est-à-dire au niveau d'antan?
En fait, ils sont en train de le faire. Vous savez, moi, je suis pour la reconstruction. Et les années passées, quand on parlait de Mazembe, je disais Mazembe doit revenir à sa philosophie originelle. Ça veut dire on construit quelque chose sur une longue durée. Parce que Mazembe commençait à se perdre lorsqu'ils ont ils ont changé de politique. Ils se sont dit on recrute les meilleurs d'Afrique. On a senti que ça a marché à une certaine période, mais ça s'est vraiment éteint. Ils ont changé de philosophie, ils ont voulu passer par leur centre de formation. Ça allait marcher, malheureusement, ils ont voulu expatrier leurs joueurs, je me rappelle, après 2016. Ouais, ils ont envoyé à peu près 5 joueurs en Belgique, et ils ont recommencé.
Après 2017 alors.
Ou après 2017, voilà, après 2017. Et là, ils sont en train de revenir à la source. Et surtout, ils ont combiné la politique, comme disait Héritier. Donc, ils intègrent les jeunes de leur formation, mais ils cherchent certains jeunes expérimentés en Afrique. Ils font cette symbiose. Et je crois...
En Afrique, en RDC,
en
ils sont en train de prospecter le marché de Kinshasa.
Voilà.
Avec les Bingi Bello qui sont aujourd'hui
et pour moi,
en étape d'instruction au niveau de la Lina.
Et c'est la meilleure politique. politique pour moi. Maintenant, il faut rester patient avec cette équipe de Mazembe. Et je crois qu'elle va arriver. Mais quand Arcade commençait à parler, j'étais un peu d'accord avec lui. Mais quand il parle de Don Bosco, ça existe toujours.
C'est pas une nouveauté.
Mazembe, la meilleure saison de Mazembe, ils vont en finale contre l'Inter. D'ailleurs, je me rappelle les commentaires lorsqu'ils sont sacrés champions parce qu'ils étaient mano à mano avec Vita. Et le commentateur qui dit, voilà le fils qui vient de donner le trophée au père, parce que Don Bosco avait fait en sorte que Veklep ne gagne pas le titre et que ce soit Mazembe. Donc même en 2010 où Mazembe était en tout cas au meilleur de sa forme, Don Bosco l'a vraiment aidé à gagner le titre. Oui, donc ça existe.
Mais ils oublient également que Veklep avait des équipes satellites.
C'est ça ce que je dis.
À un certain moment,
c'est une stratégie.
Même les équipes telles que Elima de Matadi pour Veklep. Elima portait même la vareuse de Veklep.
Ça a toujours existé.
On peut avoir une deuxième équipe dans un championnat, mais ce n'est pas une garantie.
C'est ce que je dis. Et puis, ce n'est pas une faiblesse.
Don Bosco a 6 joueurs, ça
c'est une faiblesse parce qu'ils n'en auront pas en Ligue des Champions.
Non, je dis. Moi, non. Pourquoi je ne voulais pas intervenir ce que tu as dit, mais je voulais juste montrer dans l'histoire que l'année où Mazembe était au meilleur de sa forme, il s'appuyait également sur... mais ça n'a pas empêché ce que Mazembe soit en finale de la Coupe du Monde de club. Donc, c'est dans ce sens, moi je salue bien cette politique de Mazembe. Je veux dire, on doit être patient. C'est pas en tout cas pour répondre à la question, alors c'est pas cette année où on doit attendre Mazembe au sommet, mais déjà ils sont sur le bon chemin. Je me rappelle, Mazembe a galéré. Rappelez-vous, Mazembe de 2008, de 2000, ce n'est qu'en 2009. Depuis Mazembe de Santos, les Mputu sont en train de se reconstruire, les Kadiouga.
Depuis 2004,
voilà, ils sont en demi-finale, en quart de finale.
De disputer la Ligue des Champions, ils se battaient pour l'étape de quart de finale, la phase de groupe. Et puis, ils étaient toujours éliminés.
Et puis, ils arrivent en 2009 où ils remportent la Ligue des Champions, ils limogent l'Italien, je crois, Diego Gardito. Et après, la mine qui arrive, et puis c'est Mazembe qui enchaîne. Mais ça dépendait du travail qu'ils ont effectué depuis 2004, comme tu viens de les dire. Donc, je crois que c'est la même politique. S'ils continuent comme... Malheureusement, il y a l'oseille, donc ils vont vouloir vendre. Ils sont en train de prospecter au Congo. Je crois que les standards sont ont les yeux rivés sur Mazembe. Faverdi, ils vont recruter, ils vont prendre. Donc, c'est vrai, on va rester nostalgique. C'est incapable de... Dans le contexte actuel, on sera en tout cas dans l'incapacité de voir une génération comme les Mputu, les Kalutuka, les Miayo ensemble. Parce que les Européens ne vont pas... Déjà, ils ont vendu Kabouït et tout ça. Donc, c'est le business, en fait.
Oui, ça, c'est l'image des grands clubs. Mais il faut dire qu'également...
C'est une politique.
Mazembe, justement, a été handicapé par l'absence de Moïse Katumbi au pays. Ça, c'est aussi également une donne qu'il ne faut pas négliger. Quand votre président n'est pas là, c'était pratiquement les 12e hommes. Quand il était sur le terrain, vous sentez que les joueurs sont motivés. Ils suivent au quotidien l'évolution du club. Mais depuis un moment, il n'est pas au pays.
Il avait l'argent du Katanga à l'époque.
Ça reste également
un handicap
pour Mazembe.
Cet argent.
Mais moi, je suis en train de voir cet angle-là avec ce qu'a fait Mamelodi Sundowns aujourd'hui.
Oui.
Mamelodi Sundowns, il faut voir sur les 3-4 dernières saisons. Ils ont su être patients.
Oui.
Ils n'ont pas désarmé. À chaque fois, ils étaient à la porte de remporter cette compétition. Ils n'ont pas désarmé. Éliminés en quart de finale, parfois en demi-finale, même en finale. Mais
ils sont toujours là,
ils ont su se renforcer avec des nouveaux joueurs, ils ont gardé leur philosophie. Et aujourd'hui, ça a payé. Mamelodi a été champion d'Afrique la saison passée.
Ils ont le Mago.
Voilà, et Aigle du Congo, Bendik, quelle évaluation faites-vous du projet Aigle? Après la saison passée, où ils finissent premier et ils remportent le titre et se qualifient pour la Ligue des Champions, la saison d'après, ils se retrouvent encore en Ligue des Champions, même s'ils prennent aujourd'hui la deuxième position.
Oui, globalement satisfait de ces projets. C'est un projet qui paye ses fruits. Nous sommes en train de les voir déjà avec les Aigles du Congo, une équipe qui est venue un peu, j'ai envie de dire, des nulle part, mais qui s'est vite imposée et qui a bousculé la hiérarchie. Désormais, nous savons que les titres se jouent en partie entre Mazembe et les Aigles du Congo.
Peut-être Mané Maignan aussi.
Mané Maignan, oui, mais les deux grands favoris restent Mazembe et les Aigles du Congo. Et je pense que s'il faut évaluer le projet Aigles du Congo, c'est un projet qui réussit. Et sur cette lancée, si le président n'échange pas cette bonne dynamique, cette bonne politique, les Aigles du Congo risquent de prendre cette place des dauphins ou alors de la grande équipe du pays.
Moi, je sais.
Sauf que moi, s'il faut parler de l'équipe, les Aigles du Congo, de l'équipe première, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec la philosophie de cette équipe. Nous avons vu que c'est vrai, les Aigles du Congo finit deuxième et ce n'est pas volé, mais cette équipe a essentiellement essentiellement bénéficié des décisions arbitrales qui ont été souvent contestées avec, avec le président Chimanga qui est en train d'essuyer, de corrompre notre football et même de les tuer avec, avec sa politique, avec sa politique qui est en train de vendre. On ne peut pas, mais si les décisions s'enchaînent, si les mêmes remarques s'enchaînent, parce qu'à un moment, il n'y a pas de fumée sans feu. Et moi, je pense.
C'est très proche et orienté aussi au Tepeng Gleber Mazembe. Donc, à un niveau donné, on a estimé que. La Ligue de foot était à la faveur de Mazembe, tout autant pour 20 clubs.
Pour De Ring aussi, mais quand même, Mazembe c'était déjà un grand.
Peut-être que tous les champions subissent la même remarque.
Eux, c'est un petit pourcent les aigles du Congo, là où je suis d'accord avec Benji. Si vous, ça ne va pas nous permettre de grandir.
Oui, je disais alors,
donc, ça pour, vous, donc c'est un bon projet.
Pour moi, les projets,
mais il faut que l'administration ou le président arrête de s'ingérer dans justement la gestion du sport
congolais. S'il faut évaluer les aigles du Congo, l'équipe première des aigles du Congo cette saison, ça n'a pas été une équipe éblouissante. Pour moi, il y a même Lupopo qui a produit mieux que cette équipe des aigles du Congo. Mais si vous regardez, c'est des matchs qui gagnent 1-0 des pénalties. C'est des matchs où il y a des buts refusés à l'adversaire. Il y a cet incident face à avec un club que je ne cautionne pas. Mais à un moment, enfin, de quelque part, je comprends la réaction des fanatiques parce que ces matchs, c'était une bêtise.
C'est le summum de la honte.
C'était vraiment, vous avez trouvé le mot, c'était le summum de la honte où l'arbitre refuse un but qui est même un petit bébé accorderait. Il y a un but aussi accordé aux aigles du Congo qui est contestable. Donc, pour moi, en tout cas, les aigles du Congo, c'est vrai, comme je l'ai dit, n'a pas volé cette deuxième place, mais a été vraiment, vraiment favorisé par des décisions arbitrales.
Et battu par la Simba de Kolwezi 2-1 lors de la 14e et dernière journée, Maniema Union termine sa saison sur une note négative. Mais derrière ce revers, sans conséquence, se cache une saison marquée par la résilience. Troisième du championnat avec 23 points, le club de Kindu retrouve la scène africaine. Objectif majeur fixé en début de campagne héritier. Maniema a très mal démarré la phase de play-off, mais aujourd'hui ils finissent à la troisième position.
Oui, c'est à l'image des grands clubs. Ils ont passé plusieurs périodes de difficultés. D'abord l'élimination en Coupe Interclub de la CAF. Après, ils ont limogé l'entraîneur qui est parti. En fait, tout le monde n'a pas compris. Il est parti. Ouais. Pourtant, c'est lui l'architecte au fait de cette équipe de Maniema Union. Après, il est parti. Bon, on dit chaque entraîneur a obligation des résultats. Il n'y a pas de résultats, quel que soit votre niveau. On vous remercie. Il est parti. Il fallait un entraîneur intérimaire en attendant. Et puis, Maniema a traversé des périodes de difficultés. On a suivi qu'il y a eu des joueurs qui étaient indisciplinés. Parfois, ils ne venaient pas aux loges. Parfois, ils venaient étant ivres. Et ça a créé un peu des problèmes au sein de cette équipe de Maniema Union. Et ce qui a fait qu'ils passent une très très mauvaise première phase du championnat. Mais après, ils se sont ressaisis lors de la phase retour. Heureusement pour eux, parce que cette phase retour a eu lieu. Sinon, ça aurait été un coup dur pour Maniema Union. Ils ont aussi joué leur carte et aujourd'hui, ils sont qualifiés en Coupe de la Confédération. Je pense que c'est aussi comme ça les grands clubs. Parfois, des périodes de turbulences passent, mais après, on se remet autour de la table, on essaie de réfléchir comment améliorer. Et je crois que c'est ça que Maniema Union a fait. Ils sont en coupe de la Confédération, bien sûr, ils ont aussi profité, ils ne se mouvent pas des vieux clubs qui, à mon avis, n'étaient pas à niveau depuis le début de la saison. Mais c'est également des Lupopo qui est pratiquement pour moi la désolation de cette fin de saison. Ils se sont mêlés les pinceaux eux-mêmes. Les présidents qui n'étaient pas stables sur le plan politique. Après, des licenciés au sein du comité, on a appris qu'il y a certains qui ont été mis à l'écart. Après, on sent que la politique n'est pas bonne du côté de Lupopo. Et aujourd'hui, après avoir disputé la Ligue des Champions, ils ne sont qualifiés à aucun championnat interclub de la CAF. Voilà, ils sont comme Mazembe la saison passée. Il faudrait qu'ils se ressaisissent. Et Maniema Union a aussi profité, ils ont bien joué leur carte et aujourd'hui ils sont en Coupe de la Confédération. Je pense que pour moi c'est vraiment mérité.
Les succès et performances solides, vous avez fait allusion contre Lupopo, Don Bosco, Mazembe et Vita Club, ont permis aux Kambele Mbele de reprendre leur place parmi les équipes africaines du championnat. Ce réveil a montré la capacité du groupe à répondre dans les moments où la saison semblait basculer. Désiré, où est-ce que ce club a tiré justement son talisman ou disons son secret? Considérant que Maniema a connu une période à vide pendant plusieurs années en République démocratique du Congo,
en faisant même disparaître la province du Maniema ou la ville de Kindu de la carte du football. Mais aujourd'hui, ils reviennent. Pas aujourd'hui, il y a quelques années, ils reviennent. Ils sont stables en compétition africaine interclub. Et tout le temps, ils se battent pour les places qualificatives pour l'Afrique, alors que les autres clubs du Kivu, notamment les équipes telles que toi du Kivu, Bukavu, Dawa, Mungano, Virunga, Kabasha, peinent à sortir leurs griffes.
Je suis individualiste, donc je sais que tout doit se reposer sur un individu très 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 fort, tout projet, bien évidemment,
à reconstruction
en général, c'est ça en fait, je veux parler de l'homme. La réussite de Maniema Union repose sur en tout cas la réputation et les capacités en tout cas de qui ne sont plus à démontrer du général Lamy Sikumba Didangofor. C'est grâce à lui qu'on parle du Maniema, c'est grâce à lui.
C'est au Congolais, ça.
Bien évidemment. Non, c'est pas seulement au Congo. Partout au monde, en fait. Vous regardez le Real Madrid, c'est Pérez. S'il n'y a plus lui, bon, il y a les socios, mais s'il n'y a pas Pérez, c'est pas le même Real Madrid. Et tout ça, on peut parler d'autres personnes.
Pérez a été au Real les deux saisons blanches.
Si, ça existe. Non. Non. Je pourrais parler du Barça. C'est pas seulement parce que c'est pas un amour que je vois à Pérez. Je peux parler du Barça.
Vous tarissez vos éloges à l'endroit de Pérez parce que le début du mercato semble reluisant.
C'est tout ça. Non, je veux pas durer. Je veux pas durer dans sa globalité.
Les deux dernières saisons. Écoutez,
je veux parler de Pérez dans sa globalité. Je pourrais même parler de Laporta, parce que lorsque il y avait Bartolomé, on a senti quand même que le Barça, il a laissé le Barça où il a. Mais on sait que Laporta, c'est le Barça depuis que le Barça. Bon, en fait,
c'est je lui vous qui dis. Qui a recruté les Pep.
C'est ça, en fait.
Je crois que Messi est passé.
Messi, c'est lui. Messi, dans sa jeunesse, c'était lui. Donc, il faut savoir que chaque projet doit être porté par un homme. Et le projet Maniema Union porté par le général, comme en tout cas la bonne réputation de Mazembe portée par Katumbi. Eritier a fait allusion à Lupopo, et c'est la même chose, c'est la même bêtise. Malheureusement, ils ont voulu construire autour de Andani, comment il s'appelle encore
Jacques
Aboula. Ils l'ont fait, il a connu des déboires politiques, et dès que ça n'a plus marché, ça n'a pas marché. Je faisais allusion à Katumbi et à l'argent du Haut-Katanga. Lorsque vous dirigez cette province,
à l'époque de l'ancienne province du Katanga, il faut préciser.
Ouais, maintenant c'est le Haut-Katanga, c'est toujours, il y a toujours la Gécamine et tout ça. Lorsque vous avez cette manne, ça vous permet en tout cas d'investir dans le sport. Et on sent qu'il y a après la gouvernance de cette province et l'avant la gouvernance de cette province. Mazembe était très 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 fort. Katumbi pouvait promettre 100 000 par but, par victoire et tout ça. Il y avait autant d'argent. Mais il était encore là, présent. Mais lorsqu'il n'a plus été gouverneur, malgré ses milliards, on a senti quand même qu'il y avait un déséquilibre financier. Donc, la bonne réputation, tout ce qu'il y a chez Maniema Union, c'est parce qu'il y a le général. Au-delà, il a investi dans le football. Il est devenu agent de joueur. Il est devenu vendeur. Donc, pour lui, c'est devenu de l'entrepreneuriat. Ce n'est plus seulement de la bêtise dont vous jouez seulement pour remporter les titres. Comme les autres sont perdus. Mais lui, vous gagnez sur le terrain, vous maintenez la province du Maniema, comme l'a dit, sur la carte du monde, mais également, vous me faites gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a des managers qui viennent, et donc, Maniema Union, c'est un projet qui est parti pour durer, parce que c'est voilà. Pas une équipe communautaire.
C'est comme si cette équipe de Maniema a un problème, parce que c'est vrai, ils parviennent à vendre des joueurs, mais est-ce qu'ils trouvent les moyens de ramener alors quelqu'un pour remplacer ceux qui ont été vendus? Parce que je prends l'exemple de Jonathan qui a été vendu du côté des Young Africans. Après Jonathan, on sent que. Plutôt Jephté Kitambala. Jephté qui a quitté Maniema. Il est à Azam aujourd'hui.
Qui
n'a jamais été remplacé dans cette équipe de Maniema. Aussi, un problème, c'est que l'équipe aussi devrait essayer un peu de révéler ses ambitions. Parce qu'à un certain moment, cette équipe de Maniema. C'est vrai,
ils étaient en compétition africaine interclub. Ils ont transféré Jephté et ils reviennent malgré l'absence
de Jephté. En fait,
encore
ils savent pister.
En cours de la compétition.
Je ne suis pas en train de parler de
leurs prestations au niveau africain.
Mais dans les championnats nationaux. C'est vrai qu'à un certain moment, on a senti que cette instabilité dans cette équipe de Maniema, c'est un problème. Aussi, les ambitions de l'équipe vis-à-vis aux compétitions qu'ils jouent. C'est vrai, l'année dernière, ils ont atteint le quart de finale de la Ligue des Champions. Mais est-ce que ça sera de la Coupe de la Confédération, ce sera le cas cette saison? Parce qu'on a senti que Maniema, C'est comme si l'équipe s'est fixée une limite.
Donc, si je comprends bien, vous craignez que la performance en compétition africaine
de la CAF
soit moins reluisante que l'année passée. Donc, il faut qu'ils se dotent d'une équipe capable d'aller disputer l'Afrique.
Parce que c'est une compétition auxquelles ils sont déjà habitués. C'est une compétition auxquelles ils sont déjà habitués. Ils doivent faire tout pour, en tout cas, dépasser un certain
30 secondes pour répondre à l'idée.
L'objectif actuel ne vous semble pas nanti.
C'est parce qu'ils doivent vraiment essayer de fouiller, de chercher d'autres bons joueurs pouvant leur aider d'aller plus loin dans cette compétition.
Mais je crois que c'est leur point fort. C'est leur point fort, je vous dis. On peut parler de Mazembe, on s'est dit, ils ont un centre de formation, ils ont tout. Mais nous ne savons pas où Maniema Inyo nous tire de joueurs. Des fois, vous découvrez un joueur inconnu, vous le voyez, c'est moi dans Maniema. C'est une bonne pioche. Je crois qu'ils ont une bonne cellule de recrutement. Et je ne suis pas d'accord qu'il faut... Bon,
il faut changer.
Lorsque Expedi n'est plus là, il faut trouver un autre Expedi. Mais on peut trouver une autre forme d'Expedi.
Mais là, Olivier a raison. C'est vrai, la politique de Mazembe, par exemple, n'est pas la même qu'elle.
C'est ce que je dis. Ouais. Mais ils ont une bonne cellule.
Maniema Inyo, c'est comme Veklub, c'est comme Lopopo. C'est l'éternel changement.
Ils vont pister.
Oui, vous allez pister. Mais ça n'a jamais été une très bonne politique. Mettez en place un centre de formation. Ouais. Vous formez vos propres joueurs. Tout en ayant un air regardant sur les joueurs expérimentés qui peuvent renforcer, parce que l'objectif c'est de jouer peut-être les coupes interclubs de la CAF. Mais vous allez trouver les jours que le général partira. Qui va gérer cette équipe?
Il partira pas.
Il est parti de Vec Club. Il peut partir de manière.
Il a été chassé.
Il a été chassé. Ce que je sais, c'est que quand même, c'est l'une des équipes organisées.
Et puis, c'est plus qui dirige.
C'est pourquoi ils sont toujours à un certain niveau depuis un moment. Quitte à ce qu'on garde ces niveaux-là et on s'est un peu dépaufiné par rapport à ce qu'a fait Mazembe.
Et ils ont pour jardin de prédilection l'AS Dauphin Noir de Goma.
Ça aussi.
C'est pratiquement la même
famille. Et puis, il faut dire qu'ils sont handicapés, expédiés. Ce n'est pas toujours facile hein, quand vous avez, par exemple, un stade chez vous, mais qui n'est pas homologué.
Voilà.
Vous êtes obligé de jouer, soit à Kinshasa. Cette année, ils ont choisi Lubumbashi. Ça n'a pas été très bon, mais au moins...
C'est là qu'il faut saluer à juste titre la performance de Maniema Inyo.
Cette équipe de Maniema Inyo, ce n'est pas donné à n'importe quelle équipe. Vous avez votre propre stade chez vous, à Kindu, mais on ne sait pas pourquoi. On ne veut pas que vous jouez vos matchs à domicile dans ce stade-là. On préfère vous handicaper dans un stade où vous n'avez pas assez de public, il n'y a pas de fanatiques. Et ça, c'est un handicap pour cette équipe de Maniema Inyo. Chapeau bas, ils ont su jouer leur cas. Je pense que c'est une équipe qui mérite quand même de...
Des éloges, exaucé.
Moi également, je suis d'accord avec Lydie, d'une part. Parce qu'elle a dit, elle a parlé du renforcement. C'est vrai que Maniema Inyo doit se renforcer pour rehausser un peu le niveau. Parce que l'effectif qu'ils ont actuellement, c'est lui qui a atteint le quart de finale de la Coupe de la Confédération. Mmh. Donc s'ils se renforcent, peut-être qu'ils peuvent aller encore un peu plus loin. Mais dire qu'ils vendent des joueurs, mais ils n'arrivent pas à les remplacer. Mmh. Vous avez parlé individuellement des DFT Kitamba. Là, vous avez dit qu'il n'a pas été remplacé, mais je ne suis pas d'accord. Maniema Inyo a eu quand même le deuxième meilleur buteur du championnat, Benin Amboka, qui a fini avec 16 buts. Et même en Coupe de la Confédération, ils sont arrivés en quart de finale. Il était top 5 des meilleurs buteurs de cette Coupe de la Confédération. Donc valablement, il a été remplacé. Il y a Agé Bassiala qui était également l'homme clé dans cette équipe. Il est allé chez Lupopo. Ils ont quand même réussi à ramener Mercer Ndimbi qui aujourd'hui, il est venu
Ils ont piqué à Mazembe. Même Kitamba là aussi.
Je trouve qu'ils peuvent se renforcer, c'est vrai, mais l'effectif qu'ils ont, c'est déjà un niveau
considérable. Moi, j'aime bien cette
politique. Bendy a sûrement une réaction parce qu'on a parlé de Bukavuda quand il les équipes
du les cœurs.
Déjà, moi, j'aimerais revenir sur les dénouements de cette saison, parce qu'il y a un élément très capital que l'on a semblé oublier. Il est vrai qu'on croit le classement final provisoire. Mazembe finit premier avec autant de points. Mazembe finit premier, je disais, mais il ne faut pas oublier qu'entre résultats non homologués, entre cette union sacrée et les contextes géopolitiques, il y a ces championnats qui n'a pas encore rendu son dernier verdict. Tout est encore possible. Il y a les Aigles du Congo qui peut encore finir premier, qui peut finir champion avec.
Ils sont en ascension supérieure.
Que les Aigles ont promis de saisir les tasses.
Oui, justement. Donc ça, c'est aussi un élément. C'est vrai, on a semblé mettre charrue avant le bœuf, mais c'est aussi possible que Mazembe ne soit pas finalement en Ligue des Champions. Et ça, c'est aussi un élément qu'il fallait rappeler.
Merci beaucoup. Je vais
poursuivre peut-être un cours d'avenir sur notre club d'ici. Pour moi, l'impression que je garde, c'est que ce qui a manqué à la plupart de nos clubs, comme Bukavu, Dawa, Mungano, ce sont
peut-être Kabacha, Virunga.
Pourquoi pas? Ce sont peut-être des dirigeants comme Tango Fort, comme le disait Désiré.
Des hommes forts.
Des hommes forts, parce que nous, on a senti à un moment donné que nos clubs ont eu peut-être même des hommes avec plus de l'argent qui Tango Fort, mais qui n'ont pas mené ces équipes quelque part. C'est là que moi, j'ai dit que, et je le dirai toujours, je le répète souvent dans cette émission, l'argent nous a montré que ça ne suffit pas d'aller au football.
Donc l'argent ne fait pas le bonheur.
Exactement, il y a une bonne politique qui va avec. Sinon, on la vit avec, que ce soit Roubouillé, que ce soit Bodji, que ce soit... Il y a beaucoup déjà avec qui on a vu ça dans nos équipes ici. Et on les voit encore cette saison. Mais je donne à titre voilà. De Mungano, avec Salumu et Anani qui donnent tout. Mais une équipe qui peine à revenir en première division depuis plus de 5 ans déjà. Donc c'est là qu'on comprend qu'au-delà du fait que vous aimez l'équipe, au-delà du fait que vous avez des moyens, il faut à un moment donné avoir une politique qui va avec.
Merci beaucoup. Nous allons observer une pause et revenir pour parler de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo et de la Coupe du Monde de football dans sa globalité. Exactement 12h05 à Bukavu. Pour leur entrée en lice dans le groupe, après plus de 5 décennies d'absence, les Léopards de la RD Congo n'ont pas déçu face au Portugal, actuel 5e au classement FIFA. Des Léopards timides à l'entame, dès les premières minutes, les Léopards de la RD Congo n'ont pas réussi à entrer dans leur match face à une nation portugaise habituée au grand rendez-vous. Les hommes de Sébastien Desabre ont rapidement encaissé un but à la 6e minute de jeu après un centre de Neto concrétisé par João Neves qui n'a laissé aucune chance au portier congolais Lionel Mpassi. Cependant, les Congolais vont essayer d'ouvrir leur jeu en procédant par des contre-attaques avec un bloc bas. Après plusieurs tentatives, ils vont finalement égaliser juste avant la pause, soit à la 45e minute de jeu, grâce à une réalisation de Johan Wissa qui a repris de la plus belle manière un centre venant de la droite vers la gauche d'Arthur Massouakou. À la pause, le score était d'un but partout. Au retour des vestiaires, les fauves congolais semblaient jouer un peu plus libérés après avoir réussi leur coup en inscrivant le tout premier but de l'histoire de la République démocratique du Congo en phase finale d'une Coupe du Monde 52 ans après la dernière participation. Sous pression, le Portugal va tenter de pousser à nouveau pour inscrire le second but. Le sélectionneur portugais Roberto Martinez va faire entrer Conceição pour apporter de la vitesse sur le flanc droit de l'attaque, mais malheureusement pour les Portugais, il va se heurter à une bonne défense des Léopards de la RD Congo. Les minutes vont s'écouler. Ni la RD Congo, ni le Portugal ne réussiront à prendre le dessus sur leur adversaire du jour. Les deux équipes se séparent donc sur un nul de parité, un but partout après 20 minutes très disputées. 90 minutes très disputées. Johan Wissa entre dans l'histoire. Il est actuel sociétaire de Newcastle en Premier League anglaise. Il avait promis de regarder le Portugal droit dans les yeux dans cette rencontre et c'est par lui que la délivrance des Congolais est arrivée. Après ces nuls face au Portugal, les chances de qualification pour la phase d'élimination directe sont encore intactes pour les Léopards de la RD Congo qui comptent désormais un point après une rencontre disputée. Ils vont réaliser des bons résultats face à la Colombie et à l'Ouzbékistan pour espérer franchir cette étape. Il faut donc le préciser, après ce nul, l'équipe nationale de la RDC se fixe pour objectif de se qualifier pour le tour suivant de la compétition. Le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, l'a déclaré mercredi soir en conférence de presse après la prestation héroïque des Léopards face à la Seleção du Portugal. Sébastien Desabre fait savoir que les Léopards prennent au sérieux cette ambition et tout sera mis en œuvre pour la réaliser. L'heure n'est pas à la fête, mais plutôt à la préparation du prochain match face à la Colombie en attendant de clore la phase de groupe avec l'Ouzbékistan. Le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, va donc à travers cet extrait évaluer la rencontre face au Portugal et ouvrir la voie au futur
de Léopard. Il s'est exprimé juste en conférence de presse d'après match. Vous allez l'entendre à certaines occasions. Nous avons coupé des questions en espagnol, en portugais, en anglais, pour vous laisser juste la possibilité de suivre l'intervention de Sébastien Desabes. Mais nous avons retenu dans cet élément certaines questions de nos confrères en français. Donc je vous propose de suivre le sélectionneur de la RDC après la rencontre face au Portugal.
On a eu une entrée fébrile, avec fallait s'y attendre un petit peu, avec un peu de stress lié au premier match de la compétition. On est rentré petit à petit dans cette rencontre et on marche sur un coup de pied arrêté, comme vous l'avez vu. Après, je pense que on s'attendait à ce type de match, qu'on n'ait pas forcément la possession, bien sûr, puisqu'on a joué une très belle équipe du Portugal. On aurait peut-être pu contrer plus efficace dans des phases de transition, mais en tout cas, on est content de ce point. Et concernant la deuxième question, on a fait match nul. On est lancé dans cette compétition et on se projette de suite sur les deux prochains matchs où effectivement on continuera à essayer d'en obtenir d'autres en toute humilité, parce que ça a été très difficile aujourd'hui.
The lady on the fourth row, quatrième rang, s'il vous plaît.
Good afternoon, coach. First of all, congratulations for the game, the performance and the goal for being in this World Cup, but it's a short tournament, and like you have to pass the page as fast as you can. And your next rival is Colombia. How do you see this team?
Oui, effectivement, c'est une compétition. C'est pas simplement une finale. Donc, on doit forcément penser à autre chose. Mais il faut savourer aussi ce moment, parce que pour nous, ce qui est important, c'est de donner le premier point et le premier but au Congo en Coupe du Monde. Et pour moi, je suis fier de mes joueurs pour cela. Et après, comme je leur ai dit dans le vestiaire, il faut bien récupérer et se projeter de suite sur les prochains matchs. De notre côté, c'est bien sûr qu'il faut se surpasser et dépasser ce qu'on a toujours fait dans la meilleure compétition, c'est-à-dire que il faut être meilleur, il faut courir plus vite, il faut tactiquement être bien en place. Je pense que le système nous a aidé aussi aujourd'hui d'exister dans cette rencontre, en tout cas l'implication des joueurs dans ce système. Donc il faut féliciter les joueurs qui se sont vraiment très bien comportés sur cet aspect tactique. Bien sûr que aujourd'hui tout le monde travaille, j'ai des bons joueurs, donc on est capable de faire de bonnes choses. Bien sûr qu'on est satisfait d'avoir fait ce match nul, pardon, mais on doit de suite se projeter vers la suite, parce que c'est une bonne entrée en compétition pour nous, mais il faut le bonifier par de bons matchs aussi derrière. Oui, bien sûr, on remercie tous ceux qui nous ont soutenus sur ce match et qui étaient présents. Et on sait aussi qu'au pays, tout le monde était mobilisé. Comme je l'ai dit en conférence de presse d'avant-match, je connais le peuple congolais et il y aurait eu beaucoup plus de couleurs bleues dans les tribunes aujourd'hui. C'est un manque pour nous, mais on fait avec, on a l'habitude de s'adapter. Mentalement, j'ai des garçons qui sont très forts et je pense qu'aujourd'hui, voilà, beaucoup de Congolais peuvent être fiers de leur équipe. Oui, c'était des choses qui sont travaillées, comme le Portugal également a de bonnes combinaisons. C'est une des rares équipes qui monte à 10 sur les coups de pied arrêtés. Donc oui, on les a travaillées. On avait essayé de trouver ces zones. Ça a fonctionné, donc ça c'est bien. Mais on a quand même des bonnes stats sur les coups de pied arrêtés. On en marque assez souvent. Et voilà, on est content que ça ait fonctionné aujourd'hui.
Christian Lusakwe de Top Congo, félicitations à vous. Maintenant, vous avez dit qu'il faut récupérer, se projeter. On se projette, je pose la question directement, le peuple du Congo aujourd'hui est content et fier. Kinshasa, et pas seulement Kinshasa, la diaspora et toute la République démocratique du Congo est en ébullition, on a gagné le match. What is next? Est-ce que l'équipe que vous avez, vous la voyez aujourd'hui déjà en 16e de finale, vous la voyez arriver où?
Ben, on a fait, nous, un match nul contre une des meilleures équipes du monde, donc on est content. Mais il nous faudra plus de points pour passer à l'autre step. Donc on a un objectif qui est sortir des poules, un premier objectif. Donc ça, on a fait un bon match nul, mais ça suffit pas. Donc l'information qu'on peut avoir à la fin du match, c'est que en gagnant un des deux autres matchs, on sera qualifié. Ça, c'est une première information, parce qu'on aurait 4 points, mais ça va être difficile. On va jouer des bonnes équipes. On connaît la Colombie, on a travaillé sur l'Ouzbékistan également. C'est un groupe qui est très ouvert. Donc on va bien récupérer, puis on va aller au Mexique pour essayer de faire à minima la même prestation.
Gary Huele avec la télévision nationale congolaise. Coach, félicitations. Je pense que le Congo a eu son premier point dans la Coupe du Monde et aussi marqué son tout premier but dans la Coupe du Monde sous votre direction. Cela est à féliciter. Alors, je me pose la question de savoir est-ce que, compte tenu de toute l'énergie que vous avez mise sur cette préparation de ce match, et concrètement, est-ce que vous n'avez pas laissé de plume sur les terrains? Est-ce que vous aurez encore l'énergie pour continuer la suite? Et le manque de varèse bleue,
okay,
comme vous avez dit.
Oui, non, mais je vais répondre à votre question. Effectivement, merci pour la question. On a 26 joueurs, ça c'est une chance à cette Coupe du Monde. Et nous, on a un groupe qui est assez homogène, donc qui nous permet de pouvoir changer les équipes de départ si on le souhaite. Bon, on a quand même 5 jours de récupération entre les deux matchs. Ce sera pas le cas entre le deuxième et le troisième match. Donc on va bien récupérer. On a une cellule médicale qui est très performante aussi. Donc voilà, bien sûr qu'on laisse de l'énergie sur des matchs comme ça, c'est des matchs de Coupe du Monde. Les garçons sont habitués à enchaîner des matchs.
Le sélectionneur de la RDC, Sébastien De Sabre. Et quelle analyse faire de ce match? Benin Koumé Roy, consultant de Radio Mandeléo pour cette Coupe du Monde, donne son point de vue à travers cet extrait.
Comment Sébastien De Sabre avait préparé son équipe dans les matchs de préparation avec ce système de 5-3-2 qui a tenu face au Danemark, qui est une autre grande équipe du top 20 mondial. Réussir à faire la même chose contre le Portugal, qui est cette fois-ci cinquième au classement FIFA, c'est quelque chose à féliciter de la part du technicien français. Et de ses joueurs, bien sûr, parce que ce sont eux qui sont sur le terrain et respectent les consignes du coach. Donc le plan de jeu, c'était de laisser le ballon à l'adversaire, au Portugais, et blinder le milieu de jeu. Et voilà, le Portugal a eu 75% de possession de balle. Mais malgré ça, ils ont moins tiré que les Congolais, seulement 7 tirs contre 8 pour les Congolais, un seul tir cadré pour le Portugal, et c'était le but, contre 2 tirs cadrés pour la RDC. Donc le match, tactiquement, il était vraiment d'un très haut niveau.
Vous venez de suivre Benin Koumé Roy, consultant Radio Mandeléo pour cette Coupe du Monde FIFA, qui analysait la performance de Léopard face à la Seleção du Portugal. Héritier, à vous également, quelle impression tirez-vous de ce match, surtout de comment les Léopards reviennent en Coupe du Monde 52 ans après leur première participation?
Non, je l'avais déjà dit au début de cette émission, c'est une prestation, c'est un retour tonitruant pour la RDC. 52 ans après, il fallait... il fallait ce genre de retour hein, pour redonner le sourire au peuple congolais. Bon, alors les gens se posent la question, comment on est en euphorie comme ça, parce que pourtant c'est un match nul. Oui, mais c'est un match nul parce que aux allures d'une victoire pour la RDC, parce que non seulement on a joué contre
l'une des meilleures nations du football au niveau international, ça veut dire l'un des favoris pour remporter cette Coupe du Monde. Le Portugal, c'est quand même, je crois, cinquième avant les coups d'envoi de ces matchs. Le classement à FIFA, c'est à la cinquième position.
Je crois cinquième.
Ouais. Avant ces matchs contre la RDC, parce qu'ils sont passés, ils ont chuté, ils sont désormais sixième. Mais avant les coups d'envoi, ils étaient cinquième. Ça veut dire que quand vous faites match nul avec une cinquième nation mondiale, ça veut dire que la RDC est en train de grandir. Pour ne pas dire agrandir. L'équipe est en train de grandir et ça a été en fait les critiques autour de cette sélection depuis qu'il a été rendu public avant la Coupe du Monde. Je me souviens ici, on avait un débat très houleux avec les Désirés et les autres qui disaient, même Arcade, qui pensaient qu'on allait prendre un raclé contre le Portugal. Les uns disaient Cristiano va marquer plus de buts que tout le monde parce que c'est la RDC. On a critiqué Lionel Passy, on a critiqué... Je sais pas, seulement la défense était tarie d'éloge, mais la médiane critiquait, l'attaque n'en parlait même pas. Oui, ça, c'était le moindre mal, mais Bakambu n'allait pas faire un très bon match. Bref, toutes ces critiques autour de l'équipe nationale, je pense que cette prestation contre le Portugal les a dissipées. Mais comme le sélectionneur l'a dit, il faut revenir sur la terre, parce qu'on n'a pas remporté quand même la Coupe du Monde. Hein. Il faut revenir sur la terre, il y a encore deux matchs à disputer dans la phase des poules où il faut au minimum 3 points pour se qualifier, peut-être directement ou peut-être par les 8 meilleurs deuxièmes. Mais moi, je crois que c'est déjà bien parti. Et le moral pour les garçons, ils ont compris qu'ils peuvent quand même faire quelque chose dans cette Coupe du Monde.
Hérité, vous dites que la prestation fait taire les critiques, mais qu'avez-vous apprécié dans le contenu du jeu de Léopard?
Bon, j'ai d'abord apprécié la mentalité sur le terrain. Pour moi, on a été décomplexés, c'est vrai, au début... Bon, vous affrontez le Portugal avec tout cet armada de stars dans l'équipe. Bon, pour certains, ils avaient l'habitude de le suivre peut-être à la télé, mais au juste, c'était un rêve. Réalité sur le terrain, vous affrontez Cristiano Ronaldo, c'est frousse. C'était tout à fait normal.
52 ans, retour en Coupe du Monde.
Le président de la République est dans les tribunes. Il y a des Congolais de la diaspora qui étaient dans les stades pour suivre le match. Il y a des millions de Congolais qui suivaient les matchs de loin.
Et qui vous ont contesté.
Depuis peut-être...
À une certaine proportion.
Voilà. Alors on se disait, il faut se jeter dans la bataille. Mais pour les six premières minutes d'ailleurs, on a senti qu'on n'était pas vraiment dans le match. Mais après, lorsqu'on nous a marqué... Nous avons compris, peut-être qu'il faut remettre les pieds sur la terre, jouer avec nos forces, parce que Sébastien Lestave l'a dit, nous avons nos forces et nous avons nos faiblesses, et nous allons faire parler nos forces sur le terrain. Et moi, j'ai apprécié cette mentalité des garçons qui n'ont pas craqué, ils ont su garder leur patience. Et après, on a laissé la balle aux Portugais, parce que c'est quand même une équipe qui joue ensemble depuis plusieurs années, contrairement à nous qui sommes en pleine reconstruction. Et après, on a su mettre en place notre système, on a essayé de jouer en contre parfois, et ça a payé jusqu'à ce que cette égalisation arrive. Pour moi, je marie en fait l'idée de Sable, ce qu'il a dit, il va faire beaucoup plus jouer les collectifs pendant cette Coupe du Monde que les individualités, et ça a payé, parce que mentalement, on sent qu'on est fort, collectivement, on est fort.
Et les individualités, il n'y en a pas aussi.
On peut dire qu'il n'y en a pas, mais peut-être par rapport au Portugal. Oui. Non, j'ai dit peut-être par rapport au Portugal, on n'en a pas. Mais attention, Chancel a joué avec Cristiano. Non, ça dit qu'il joue régulièrement
à
Sunderland. Kisaka joue avec West Ham. Moukao joue en France régulièrement avec Vitinha. Donc, il n'y a pas de complexe, c'est vrai. Vitinha, c'est le Paris Saint-Germain. Moukao, c'est Lille. Mais attention, ils sont sur le même terrain chaque fois, peut-être chaque week-end, en championnat.
Bakambu a déjà marqué des buts.
Bakambu a joué face au Barça, face au Real. Ça veut dire qu'en serment, ils se sont dit, nous sommes aussi des garçons comme eux. C'est vrai, ils ont peut-être un cran au-dessus, mais nous allons montrer que nous sommes venus ici pour jouer cette Coupe du Monde. Et je pense que c'est ça la force. On a critiqué cette liste, mais moi, à mon avis, j'étais parmi ceux qui pensaient que cette liste allait bien nous représenter à cette Coupe du Monde. C'est vrai, on est qu'au premier match, mais face à la Colombie, je pense qu'on va... On va réitérer le même exploit, tout à pas essayer de battre cette équipe colombienne.
Merci beaucoup. Nous accueillons un autre invité. Il analyse souvent les prestations de la RDC. Isaac Mouilaré, bonjour, bienvenue.
Bonjour Expedi, bonjour à tous les amis au studio et surtout bonjour à tous les auditeurs de la Rama.
Merci beaucoup. Maurice Mirindi, où est-ce que ces léopards ont puisé cette énergie pour résister de bout en bout? Certes, comme Héritier a dit, les 5 ou disons les 10 premières minutes c'était un peu timide, mais après la RDC a résisté jusqu'à la fin de la rencontre. À un moment donné, la RDC est passée à deux doigts de marquer le deuxième but de la rencontre, disons troisième but du match de façon complète. Où est-ce qu'ils ont tiré cette force pour rester de la sorte?
Merci beaucoup, Expedi. Les Léopards ont tiré cette force premièrement dans les critiques lors du dernier match amical avec la Chili, mais également dans la mobilisation du peuple congolais. C'est-à-dire que c'est pour les derniers matchs, ce qui était, je crois, à 4 jours du début de la Coupe du Monde, c'est presque tous les Congolais qui étaient déçus de la prestation des Léopards. On a critiqué les joueurs de partout. J'ai vu les coachs essayer de défendre les joueurs et j'ai compris que c'était une façon de se responsabiliser aussi pour les joueurs parce que se disait que nous allons à la Coupe du Monde, mais voilà, nos supporters n'ont plus confiance en nous parce que notre dernière prestation n'a pas vraiment rassuré. Et donc, il y avait cette obligation de résultat quelque part dans le chef de nos joueurs. Il y avait également cette mobilisation qui était partout, que ce soit en RDC ou partout ailleurs, y compris même aux États-Unis. Et donc, les joueurs se sont sentis devant un fait auquel ils étaient obligés, en fait, d'avoir un résultat, de faire de leur mieux. J'ai vu vraiment un match sans complexe. C'est vrai, comme l'a dit Héritier au départ, on était complexés. Je dois également reconnaître qu'au départ, je me suis dit qu'on ne vient pas gagner, on ne vient pas jouer pour gagner, parce qu'on a commencé à jouer en conservant. C'est comme qui dirait qu'on avait déjà gagné et qu'il fallait conserver.
C'est beau,
personnellement, je n'étais pas convaincu. Donc, on commence le match, on s'est dit, bon, on ne vient pas gagner. Et presque tous les Congolais étaient convaincus de ça. Moi-même, là où j'étais, c'était la même chose. Batatu Piga 5, Batatu Piga 8. Et donc, on a senti les joueurs qui viennent pour limiter les dégâts, pas pour gagner. Le départ, c'était ça. Et donc, moi, la victoire, entre guillemets, qu'on appelle victoire, mais qui est le match nul, c'est, pour moi, c'était beaucoup plus un hasard que le coach, avec son système, a pu payer. Et donc, moi, je me dis, c'est vrai, si déjà on peut arriver à ce niveau, ça amène de l'appétit. Ça amène de l'appétit parce qu'on se dit qu'avec maintenant à la Colombie, peut-être qu'on sera plus responsabilisé et qu'on pourra chercher à mieux faire. Mais le départ était mauvais pour moi. J'ai vu, en fait, un coach qui n'était pas vraiment convaincu qu'il pourrait faire face au Portugal, mais il s'est dit, au nom de l'honneur, il y a lieu de limiter. Et donc, en instaurant ce système, son système-là, en tout cas, n'était pas pour gagner. Laisse-moi parler. Ouais. Ce système était pour limiter les dégâts.
Voilà.
Mais c'est un système qui, avec les circonstances aussi du jeu, ont payé.
Voilà.
Et voilà que nous tous, c'était la fête.
Mais ok.
Vous dites, voilà. Non, c'est pas de nulle part. Moi, je ne dis pas de nulle part.
S'il vous plaît, vous estimez que, au départ, il n'était pas convaincu. Mais est-ce que vous, comme fanatique, s'il vous plaît, vous, comme fanatique, vous étiez convaincu que cette RDC avait les moyens de battre le Portugal?
Comme fanatique, j'étais convaincu que la RDC va surprendre. J'étais convaincu. Surprendre pour moi, le Portugal était quoi? Soit 28 gagne 0. 2-0. Mais pas 5. Voyez-vous? Ça, j'étais convaincu. Je me disais, bon, quand même, on a un jeu. Peu importe ce qu'on peut dire, on a aussi des individualités. Les individualités, c'est-à-dire, c'est pas qu'on a les meilleurs joueurs. On a une équipe moyenne, c'est vrai. Mais on avait des gens qui ne devraient pas être complexés par rapport en fait, à la compétition. Moi, j'ai vu Bakambu en fait, jouer sans complexe. J'ai vu les autres. Et donc, j'étais convaincu qu'avec l'équipe qu'on avait, on n'aurait pas de complexes. Par contre, si on avait des locaux, il y a déjà Vanarefe Kabaone et Cristiano. Ça serait l'occasion. Ça n'a pas sa valeur à la match. Et donc, sur cet aspect, j'étais convaincu qu'on peut faire quelque chose. Mais le match nul, personne ne s'y attendait. Et donc, nous, on a considéré ça comme une victoire parce qu'effectivement, on pensait qu'on aurait plus que ça.
Vous avez eu quelle impression en voyant la RDC encaisser un but à la sixième minute? Vous comprenez?
À la sixième minute, pour moi, c'était normal parce que si vous avez bien suivi le match, je crois, jusqu'à six minutes, la RDC n'avait pas encore touché le ballon. Et donc, on s'est dit qu'à tout moment, on peut nous piter. Psychologiquement, on était déjà préparé au regard de deux, troisième minute du match. On se disait que bon, on aura plus. Et d'ailleurs, quand on nous a buté, on a pensé qu'on allait continuer dans cet allié. Mais les joueurs ont pris conscience.
Et aussi.
Les fanatiques ont continué. La mobilisation a été faite. Il y a des autorités qui ont été là. Et donc, les joueurs se sont responsabilisés quelque part.
Il faut dire que c'est grâce à Sebi qu'on fait un bon match.
Il fallait compléter. Peut-être. Effectivement, parce qu'on est allé à la mi-temps avec déjà les morales. Donc, on était déjà. On a commencé mal, oui. Mais avec l'évolution, il y a aussi le Portugal qui était un peu négligent et qui pensait qu'il avait toute la victoire entre ses mains. Et voilà que cela aussi a payé parce que le Portugal aussi mentalement était venu en super par rapport à la RDC. Et la RDC a pu capitaliser cela. Et donc, moi je pense, il faudra peut-être pour le match de la Colombie.
On ne parle pas encore de cette rencontre face à la Colombie. Nous évaluons d'abord.
Donc, moi c'est ça en fait. J'évalue le match, j'ai dit que les joueurs se sont responsabilisés. À ses responsabilités, c'est-à-dire, peu importe, on affronte pour, n'est-ce pas, Toshahaya, pour faire plaisir au peuple. C'était ça le départ. Et moi, sincèrement, j'étais satisfait de ces matchs-là.
Voilà, Arkad Tibonga, quelle évaluation faites-vous particulièrement de la prestation de la RDC en cet entame de la Coupe du Monde?
Déjà, moi, je vais rebondir là où j'ai essayé de compléter les grands frères. Je pense que si on fait un tel match face aux Portugais, c'est parce qu'on nous encaisse dès la 6e minute. On a vu que la RDC joue très bien après avoir encaissé. Et on l'a vu même face au Chilien, que c'est après avoir encaissé qu'on est parti même inquiéter le Chilien et qu'on a même mis ses buts de Joris Kayembe à un moment donné. Donc moi, je pense que si on n'encaisse pas dès la 6e minute de jeu, peut-être on ne produirait pas cette masterclass qu'on a vu de la part de nos Léopards. Parce que c'est après avoir encaissé dès la 6e minute qu'on commence à revenir petit à petit dans les matchs, mais les six premières minutes, mais on n'a pas existé dans ces matchs. Et puis c'est après la sixième, huitième, dixième minute, on commence à revenir petit à petit dans les matchs. Et avant la fin de cette première période, c'est là qu'on voit maintenant la RDC qui commence à prendre des initiatives. On voit cette attaque AD avec Bakambu et Yohan Wissa qui commence à l'inquiéter petit à petit cette défense portugaise. Et ça finit par payer sur ses centres aussi, ça couvre d'Arthur Masuaku. Mais ça vient d'où? Ça vient d'une action qui est jouée à un cornet, qui est jouée à D, entre Moukaou et Masuaku. Et Masuaku qui finit par centrer. On connaît tous sa patte du pied gauche. Donc moi je me dis que oui, c'est un match nil aux allures d'une victoire pour la RDC, au vu de l'adversaire qui était en face. Mais au-delà du fait qu'on a très bien défendu durant les 90 minutes, malgré ces billes encaissées, où moi je pense qu'il me passerait encore mieux sur ces billes de Joao Neves. Personnellement, ça n'engage que moi. Vous n'êtes pas obligé de partager mon avis. Mais moi je pense qu'il me passerait encore mieux sur ces billes-là. Mais ça ne dérange pas, on n'était pas encore dans les matchs. Peut-être que cette même action, à la 60e minute, on passerait mieux qu'à la 6e minute. Donc, c'est là que je me dis qu'au-delà de nos Léopards, qui ont bien défendu pendant 90 minutes, c'est cache également une équipe portugaise qui est passée à côté de son match. On ne va pas se mentir, on a vu que l'entraîneur voulait que tout passe par Cristiano. Cristiano qui est un produit fini aujourd'hui, avec tous les respects que j'ai pour sa carrière, mais on a vu que ça ne colle plus, ça ne marche plus. Il fallait même donner des espaces à des joueurs comme Bruno Fernandes. Oui, il n'a des places aux fanatiques de Cristiano comme Désiré, mais on sait que l'ancien, ça ne marche plus. On a vu même certaines occasions qu'il a eu dans la surface de réparation. Il a été miselé par Twanzembe Mbemba. On a vu qu'il a privé Bruno Fernandes, qui marque souvent à Manchester United sur des coups francs dehors de surface de réparation. Ça n'a pas été légal, ils n'ont pas eu l'occasion. Et aujourd'hui, c'est une équipe divisée.
Merci beaucoup.
Quand tu vois ce qui se passe.
Désiré, certes, le résultat est satisfaisant.
Pour les auditeurs, faites une
bonne
élection.
Pour bien évidemment, les Congolais, un but partout, on ne s'y attendait pas, ou disons, on s'y attendait le moins. Mais déjà, comment vous avez analysé l'alignement, le 11 qui entame cette rencontre?
Pour être sincère, quand je suis entré dans ce studio, je me demandais comment je vais aborder la question. Mais je salue en tout cas les analyses de mon grand Maurice. En tout cas, il vient de mettre à l'aise. Du coup, quelqu'un qui fait une lecture objective, je crois que je peux partir de là sans beaucoup heurter la sensibilité de certains dans ce studio, la plupart d'ailleurs, des auditeurs qui nous suivent à la maison. Je crois qu'on peut partir de là et comprendre parce que il y a déjà des prémices qui ont été mieux placées. Donc je veux juste faire tout ce qu'il a dit et parce que tout ce qu'il a dit, c'est ce qui s'est passé au fait. On a fait un match héroïque. Je suis très fier pour l'équipe. Ça rentre dans l'histoire. Les hommes peuvent mentir, les chiffres ne mentent pas. On saura que l'histoire retiendra qu'on a marqué contre le Portugal, qu'on a fait match nul, qu'on a marqué le premier but. Ouais, que les Congolais ont été partout au monde ont été fiers de ça. Et ça, en tout cas, de ce côté, étant Congolais, je suis pour le bonheur et le football contribue également cette partie-là du bonheur du peuple congolais. Mais si on doit rester vraiment analyste sportif, que je suis depuis un certain moment pour cette équipe nationale, à une certaine période, j'étais analyste et fan. À une certaine période, je suis devenu juste analyste pour cette équipe nationale. Bien évidemment, il y a toujours le cœur, il y a toujours...
Depuis l'arrivée des sabres,
Non, au départ,
mais vous êtes plus...
Depuis le retour de la CAN, bien évidemment. Ouais, c'est sûr, je suis resté plus analyste.
Oui, donc vous étiez fanatique
très, ouais, analyste. Fan, c'est sûr, je ne l'ai jamais caché.
Je l'ai contextualisé.
Je ne l'ai jamais caché. C'est connu de tous. Donc, on a fait un match, un bon match, mais... Je crois que c'est le Portugal, Arcade l'a dit, a très mal joué. Il faut voir même la tête des joueurs portugais, qu'est-ce qui s'est passé. Et je crois, pour moi, qui suis aussi portugais, je crois que c'est des bons augures pour la suite de la Coupe du Monde.
Vous êtes portugais.
Je suis toujours fanatique du Portugal. Écoutez, il faut être sincère, quand on est sur un plateau, quand on est désiré, football, toute Coupe du Monde.
Vous n'êtes pas portugais de la solidarité, mais fan du Portugal.
Toute Coupe du Monde, j'ai toujours été fan du Portugal, voilà, et je sens mon cœur battre pour le Portugal, donc je me dis...
Ça ne veut pas dire que vous êtes portugais.
Vous êtes fan. Vous êtes congolais, mais fanatique.
Écoutez un peu, cette tradition littérale, c'est dans la rue, on a dit, ni qu'au portugais. C'est dans ces sens, en fait. Je crois, pour la suite de la compétition, ce match va permettre, parce que...
Revenons d'abord sur ce match.
Sur ce match, l'analyse de ce match, il a dit, Maurice, on vient jouer pour limiter les dégâts, tout le monde savait. D'où l'euphorie juste après le match nul. Ça, c'est sûr. Même les buts. Parce que là où je suivais le match, les gens se disaient, même si on prenait 7, on a déjà marqué. Parce que la fête a commencé à partir du but. Mais le but, comment il arrive? J'étais en train de dire à Exaucé pour la première fois que je suis avec Arcade Anamalisa Mumbaya. Donc, c'est les buts. C'est le sixième but qui change la physionomie du match. La façon dont le match commence.
Le sixième but.
Le but à la sixième minute. C'est la sixième minute qui change tout le match. Et Roberto Martinez l'a dit. Après ces buts, ils ont arrêté de jouer. Ils ont vu qu'il y a. Bon, vu, de toute façon, ils ont dit qu'il n'y a pas d'adversaire. Il n'y a pas d'adversaire.
C'est pas ce qu'il a dit.
Oui, je suis une déclaration.
Était plutôt surpris par la réaction de la RDC.
Non,
après les buts. Après les
Je vais vous trouver la déclaration. Je vais vous trouver la déclaration de Martinez.
Il en a dit, même s'il a dit.
C'est son analyse, en fait. C'est sûr. Oui, je vais y arriver. Et pourquoi je l'ai dit? Pourquoi ils ont arrêté de jouer à partir de la 6e minute? Façon dont ils ont abordé le match. Façon dont ils ont dominé, regardez même les statistiques à la fin de la première mi-temps. Je parlais de la comparaison des débuteurs. Lorsque vous regardez, on lui affiche quelles statistiques? Je crois deux passes, un but, un tir. Neves, 61 passes, dont 60 réussies, un tir, un but. Tu vois un peu? Pour nous, passe, à part la possession, c'est 99, donc 99 passes. Contre 435 passes. Tu vois un peu. Bon, c'est la philosophie. Ça, c'est une analyse qu'ils sont en train de faire.
Il leur a interdit de jouer.
Alors,
c'est ça la question.
C'était la négligence.
Ce que je dis, quand vous abordez le match comme ça, face à un tel adversaire, vous marquez à la 6e minute. Dans vos têtes, les buts vont tomber comme la pluie qui tombe du ciel. Même le but que nous, on marque, j'essaie un peu. Bon, j'étais avec Fondi, j'essaie un peu de lui montrer la genèse du but. C'est zéro marquage. Regarde même la réaction de Cristiano envers son gardien. Il dit non, tu dois arrêter ces ballons. Tu vois un peu?
Dès qu'il met des têtes à des
gardiens. Bon, non, je dis, je fais une... Bon, vous allez faire une analyse. Je dis, à une certaine période, j'étais fan et analyste. Okay. Là, je fais juste l'analyse de but. Ok. Moka, où il a la balle, il n'est pas pressé. Il donne la balle à Joris, qui n'est pas également pressé. À Massouakou, qui n'est pas également pressé.
Il a le temps d'ajuster.
Il donne la passe à Wissa, qui saute en tout cas d'une manière héroïque.
Tous les persos de la RDC se retrouvent dans la surface de réparation.
C'est ça, en fait. Ils sont là. Personne, aucun défenseur ne saute. Regarde le but. Voilà. Sur le but, aucun défenseur portugais ne saute. Et le gardien essaie juste de mettre la main.
Ça veut dire qu'on est dans une équipe, ça va passer, on va à la mi-temps, on va revenir, on va jouer. C'est comme ça qu'on marque.
C'était le cas pour le but de João Neves, qui n'a pas eu de marquage également.
Parce qu'il y avait un double, il y avait prise à deux sur Cristiano. Voilà. Si vous regardez comment il y avait une prise à deux sur Cristiano. Parce que lorsqu'il y a corner, le but du Portugal, comment il arrive? Il y a Mbemba et l'autre là, Capoadi, qui font une prise à deux sur Cristiano parce qu'ils savent qu'il va sauter. Il l'empêche de sauter. Contrairement au Portugais, il y a Wissa qui est là, qui va sauter, c'est ça n'enlève en rien au but de Wissa. Mais il n'y a aucune défense.
La défense, elle est nulle.
Donc, personne ne saute. Ça veut dire, bon, ça va passer.
Mais il faut dire que derrière Wissa, il y avait Twanzembe.
Voilà. Ce qui nous fait. Donc, c'est le contexte de ce but. Et à partir de ce moment.
Donc, autant il y a eu faille dans la défense du Portugal, autant il y en a eu dans la défense de la RDC pour les buts.
Sur le but.
C'est pratiquement presque la même action.
Oui, c'est lui marqué sur la tête.
Il n'y a pas de marquage sur le joueur qui marque le but.
Et à partir de ce moment, je ne sais pas ce que le coach va dire dans le vestiaire. Les joueurs se disent, non, normalement, lorsque vous faites, il y a une psychologie du désespoir à une certaine période.
S'il vous plaît, désirez, vous n'avez plus rien à perdre. Tout le temps.
Je conclue par là.
Comment vous évaluez en peu de mots la prestation de la RDC?
La prestation de la RDC.
Comment vous évaluez en peu de mots?
Bon, je vais répondre.
Bon, il a été mauvais.
Je vais répondre. On m'a posé la même question. Je dis, moi, désirez, tout ce que je dis de cette équipe nationale avant ce match. Je continue à les redire. Si vous me posez la question avant ce match, de vous dire, je vous dirai la même chose que j'ai dit avant ce match.
Vous avez dit ça veut quoi, dire pour moi, s'il vous plaît, rappelez aux auditeurs.
Vous avez hérité.
Peut-être qu'ils ne vous ont jamais
écouté. Non, ils savent. Écoutez un peu. Désormais, quand Héritier parle de l'air de ça qui me dit, toi, je sais ce que tu vas dire. Je sais que les auditeurs.
Quand vous arrivez, ça dit que je donne parole à quelqu'un d'autre. Comment vous évaluez cette prestation? On est pressé par le temps.
Quand j'arrive ici. Et Lydie, c'est cette fois, je sais ce que tu vas dire à l'équipe nationale. Ça veut dire, pour moi, nous avons une équipe moyenne, bien évidemment. Nous avons un coach moyen. Nous pouvons surprendre comme on l'a fait. Mais pour moi, l'équipe de la RDC, c'est pas une équipe. Même face à la Colombie, si vous me posez la question, c'est pas un truc de me dire, on va faire un miracle. C'est pas une équipe sur laquelle tu peux parier au départ de match. Donc,
Merci beaucoup. Isaac Moulare, votre appréciation de cette prestation.
Merci, cher Expedi. Au fait, je suis désolé parce que je vais aller à l'encontre de tout ce que les amis ont dit.
C'est très normal.
Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de hasard qui s'est passé lors de cette rencontre. Tout a été méticuleusement étudié. Les coachs l'ont bien dit. Ils ont travaillé sur ces matchs. Maintenant, si vous me dites que la RDC était faible, si notre attaque était faible, c'est que la défense portugaise était faible.
Ouais.
Alors, les deux équipes là,
moi je suis Ruben Dias, ce n'est pas la même défense portugaise.
Bon, laisse-moi parler.
Je parle pas des absents, je parle du match.
Ouais. On analyse toute l'équipe en fait. C'est une même organisation.
Au fait, et c'est ça aussi le problème. Le Portugal a l'effectif, mais nous avons l'équipe.
Le collectif.
Notre équipe a retrouvé son âme. C'est ça que vous ne comprenez pas. La RDC que vous avez vu jouer, pour une fois, j'ai vu des sables sérieux et sûr de lui-même. Il savait ce qu'il venait produire sur le terrain. Pourquoi je l'ai dit?
Il tremblait.
Ça
a été montré sur le compte de France. Il tremblait, il transpirait. C'est sûr.
Mais il faisait chaud aux États-Unis.
S'il vous plaît, cher Désiré, si des sables tremblaient, c'est que le coach tremblait aussi. Pourquoi je l'ai dit? Les joueurs arrivent sur le terrain. On sent pour la première fois que cette équipe a eu le temps de se préparer.
Ouais, ça c'est sûr.
Donc, loin des projecteurs, des sabres, a si inculqué quelque chose dans la tête des joueurs. Les joueurs sont arrivés là-bas. Des sabres avaient déjà conscient système de jeu. Pourquoi? Parce qu'il a étudié l'équipe portugaise.
Et c'est le même qui a joué face au Danemark.
Comment nous allons jouer? 3-5-2, nous y allons. Ok. Qu'est-ce que ce jeu-là va nous produire? Non, ce n'était pas pour limiter les dégâts. C'était un système de jeu. Parce que c'était à nous de profiter des contre-attaques pour marquer.
Oui, Encore une fois, je l'ai dit. Parce qu'ils savaient que le Portugal joue la possession. Ouais. Et quand les équipes vous privent les ballons comme ça, vous les laissez les ballons, vous jouez en contre-attaque. Ouais. Ça, c'est un principe que nous voyons.
Et une chose.
C'est comme ça que l'Atlético Madrid a battu le Barça en Ligue des Champions cette saison.
Même en Coupe du Roi.
Moi, je vous dis, dans un match de football, il y en a qui viennent pour jouer. Et d'autres qui viennent pour gagner. À un certain moment, vous avez vu Barça Real, c'est Barça qui
qui jouait la possession. Mais des fois, c'est Real qui gagnait les matchs.
Nous,
nous sommes venus battre le Portugal.
D'accord.
Mais seulement Bakambu n'était pas dans son grand jour.
Merci.
Sinon, on allait mettre les deuxièmes.
Oui.
J'ai jamais vu
Bakambu. Évaluation de son match.
Moi, je pense que je suis vraiment très, très d'accord avec Isaac. Parce que moi, quand j'ai vu, en tout cas, cet alignement qu'a proposé Sébastien lors de cette rencontre, je me suis dit que ici, c'est pas comme si on est venu juste pour observer, on est venu jouer et pour marquer. Parce que après, à partir de la 10e minute des jeux, quand j'ai commencé à voir comment est-ce que la RDC jouait, moi j'étais déjà sûr qu'ici, même si le Portugal marquait, le Portugal ne peut pas marquer au-delà des deux buts. Et c'est ce qui a poussé qu'on ne puisse pas vraiment encaisser après le but de Wissa. Parce que c'est comme si quand les joueurs sont partis à la pause, le discours a changé. Au même moment, au retour de la pause, on a vu en tout cas les Congolais vraiment commencer déjà à bien maîtriser les ballons, contrairement à la manière dont ils ont joué la première mi-temps. Et bien, Isaac venait de soulever un élément important. On allait même gagner ce match-là si vraiment Bakambu il était très très efficace dans les actions qu'il posait. Parce qu'il a vraiment raté deux occasions qu'il allait marquer si vraiment il était très très efficace. Mais dans la chambre, on a senti une équipe de la RDC très très responsable. Et moi, en tout cas, pour les Congolais qui ont suivi, la RDC est partie au-delà des attentes que les Congolais avaient, en tout cas pour le plan de ce. Parce que quand vous jouez contre une équipe comme Portugal, surtout que la RDC est une première participation, je rappelle que dans cette, pour cette génération, en fait, c'est la toute première fois que tous les joueurs qui étaient là jouent la Coupe du Monde, alors que Cristiano et les autres étaient vraiment au-delà de leur deuxième participation. Moi, j'ai vu en tout cas une équipe de la RDC très très bien en forme. Et je pense que vous, on va parler du match contre le Portugal, mais jusque-là, la RDC a joué de manière très très conséquente.
Merci beaucoup, Tchemwenge. Comment vous avez évalué cette prestation?
En fait, c'était un bon match. Comme tous les autres viennent de le dire, ce n'était pas aussi mauvais. Mais j'ai fustigé quelque chose de la part de Bakambu. Comme Lydie venait de le dire, il a joué son rôle parce qu'il a réussi à fixer l'axe central du Portugal. Mais il a eu des occasions nettes. Alors, il voulait que ce soit lui qui marque. Il a eu une occasion, oui, ça a été de libre, et vous avez même vu que oui, ça avait demandé la balle.
Oui, ça c'est vrai.
Mais individualisme.
Non, c'est un buteur. Il nous a déjà privé de nous demander.
Ça fait des fois, alors moi je me dis, bon, ok, attendons voir, nous avons frôlé. Et c'était on peut dire qu'on a gagné la bataille. J'ai dit bien gagner la bataille, mais la guerre continue.
Merci beaucoup. Exaucé Chubac, à vous également. Déjà, cet alignement, le 11, comment vous l'avez évalué d'entrée des jeux en voyant le 11 et l'organisation de ce système avec 3 axios, 5 milieux et 2 attaquants devant?
Bon, déjà, moi, c'est là où l'espoir est arrivé en voyant le 11 de départ parce que je savais déjà qu'on avait une excellente défense. Au milieu de terrain, en ne voyant pas Noah Sadiki, je me suis dit, oui, c'est bon, on va bien faire avec Edo Kayembe parce que...
Nous avons échangé autour de la question le dimanche dernier.
Effectivement, et en voyant Edo Kayembe, je me suis dit, on allait faire un grand match au milieu de terrain et surtout les 11 de départ proposés par Benjamin le dimanche dernier, sauf Théo Bongonda qui n'est pas apparu sur sa liste. Moi également, j'étais très d'accord avec cette attaque à deux, avec Cédric Bakambu et Johan Wissa. Et puis, en voyant l'attaque en face du Portugal, je me suis dit non, on ne va pas prendre plus de 2 buts. Parce que cette attaque que le Portugal a alignée, je vous dis que l'attaque du Sénégal est de loin meilleure que l'attaque du Portugal avec Cristiano, Neto et Bernardo Silva. Quand tu regardes aujourd'hui Sadio Mané, Nicolas Jackson et Iliman Diaye, c'est meilleur que cette attaque du Portugal. Ça, c'est selon moi. Ça, c'est selon moi.
Dans leur club ou dans l'équipe nationale?
Partout en équipe nationale, surtout en équipe nationale. Effectivement. Donc je me suis dit que la RDC allait prendre moins de buts, en tout cas pas plus de 2. Et puis après moi je me dis que la RDC a fait un bon match que le Portugal. Pourquoi? Parce que nous on a bien respecté littéralement ce qu'on a prévu. Pourtant le Sénégal, ou plutôt le Portugal, n'a pas réussi à faire ce qu'ils ont prévu. Est-ce qu'ils ont même prévu quelque chose? Parce que tellement ils nous ont tellement négligé qu'ils n'ont même pas eu des plans de jeu, ils sont juste venus jouer. Et la RDC savait que on n'allait pas garder la possession de la balle pendant très longtemps. Donc il fallait juste procéder en contre-attaque et on a réussi à le faire. Et profiter également des certains coups de pied arrêtés. Et c'est de là que vient notre but. Donc, à mon avis, la RDC a bien joué. La RDC a été bien meilleure que le Portugal. Et ça reste mon avis Parce que le football d'aujourd'hui, c'est jouer bien, c'est pas juste garder le ballon. C'est pas juste garder le ballon pendant un long moment. C'est savoir respecter votre stratégie que vous avez mise en place et qui va vous aider à contrecarrer la stratégie de l'adversaire. Et c'était ça la RDC, parce que le Portugal n'a pas quand même réussi à faire les grands matchs qu'on attendait de lui, et c'était ça notre force.
Benjamin.
Oui, alors, déjà, je ne sais pas c'est quoi la question exactement.
C'est la même question autour de l'évaluation, parce que pour ce premier tour de table, nous évaluons d'abord la prestation de Léopard.
La prestation de Léopard, non, je suis globalement satisfait de cette prestation. Nous avons très bien joué. Certains ont semblé dire ici que c'est le Portugal qui a fait un mauvais match, mais là, je suis tenté de poser la question. Si le Portugal a fait un mauvais match, si ses résultats, c'est plus à mettre au crédit d'un mauvais match du Portugal, mais qu'est-ce que le Portugal fait des mieux qu'ils n'ont pas fait durant cette rencontre. Je ne sais pas si vous suivez de près cette équipe, mais moi, ce que j'ai vu du Portugal, c'est ce qu'ils produisent tous les jours. C'est-à-dire, vous avez la possession des balles et puis vous utilisez la profondeur.
Vous cherchez un homme, un seul homme.
Non, ce n'est pas comme ça que le Portugal...
Ils n'ont pas cherché.
Justement.
Malheureusement, ils n'ont pas cherché.
C'est ça. Ce n'est pas que le Portugal a mal joué parce qu'ils cherchaient Cristiano. Cristiano, c'est le joueur qui a touché moins de ballons. Il y a même les gardiens qui ont touché plus de ballons que Cristiano dans ces matchs. Donc, le Portugal a joué, c'est que... Le Portugal a joué comme ils ont toujours joué, mais c'est la RDC qui a très bien joué, c'est la RDC qui a très bien défendu, c'est la RDC qui, avec ses systèmes, a su désarmer le Portugal. Parce qu'ils ont eu la possession, ça, il n'en fait aucun doute, mais lorsqu'ils avaient la balle, on n'a pas laissé des espaces. Et c'est ça la force de cette équipe du Portugal. Ils utilisent les espaces avec Neto, avec Leao, avec Bernardo Silva. Ils utilisent des espaces avec des balles en profondeur. Mais on a cassé toutes ces passes-là. On a cassé leur force. Et c'est pour ça que, pour moi, en tout cas, c'est l'un des meilleurs matchs de la RDC depuis l'ère
des... Beaucoup fistigent, par exemple, l'alignement de Bakambu. Tchemwenge y est revenu. Tchemwenge est revenu. Il n'est pas le seul. Certains autres fanatiques.
C'est un joueur de moins.
Certains autres fanatiques estiment qu'il faut mettre de côté Bakambu pour aligner soit Simon Banza ou Christian Maele, pour certains. Et au-delà de cet alignement, certains autres Congolais, s'il vous plaît, maintenant le calme et l'ordre dans ce studio, certains autres Congolais estiment qu'il fallait peut-être aligner Noah Sadiki. J'ai suivi d'autres... À des endroits différents, Noah Sadiki en lieu place de Edo Kaemo.
Oui. Alors, on va commencer par Bakambu. D'ailleurs, si vous avez bonne souvenance, les dimanches passés, déjà, je disais que pour moi, les 11 idéales, l'attaque idéale dans le cas de figure, c'était Wissa et Théo Bongonda. Mais je suis forcé de constater et d'admettre que Bakambu nous a sorti une belle prestation. Bakambu a fait les matchs qu'il fallait, à quelques exceptions près et au réalisme que nous attendons. Tous de lui, mais Bakambu a fait un match très complet. Bakambu a fait un match très très satisfaisant. Et d'ailleurs, il a été l'un des grands bonhommes de cette rencontre. Tu sais qu'il y a des noms à Sadiki. Si je suis d'accord, j'ai été vraiment d'accord avec l'alignement d'Edo Kaembe, parce que Noah Sadiki peine à s'imposer dans cette équipe nationale. Noah Sadiki peine à nous montrer les mêmes visages qu'il montre en Angleterre. Et à contrario, il y a Edo déjà qui est très efficace dans ses milieux et qui répond surtout aux attentes.
Merci beaucoup. Héritier, déjà mercredi, c'est la Colombie en face. La Colombie qui est premier de ce groupe, qui s'est imposé face à l'Ouzbékistan. Voilà, comment on peut aborder ce match? Qu'est-ce qu'il faut changer dans ce que nous avons vu face au Portugal? Est-ce qu'on doit maintenir... Bon, comme on le dit souvent, on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est donc un match nul aux allures d'une victoire pour la République démocratique du Congo. Que faut-il faire?
Bon, il n'y aura pas grand-chose à changer. Hein. Je pense que Sébastien a vu le temps d'étudier cette équipe colombienne qui a un style de jeu très très différent de Portugal. Le Portugal, c'est le jeu de possession. Ils ont des attaquants très rapides. Et comme vous l'avez dit, ils préfèrent passer par les couloirs beaucoup plus. Vous avez vu que Neto était beaucoup plus en mouvement. Ils ont des pistons qui sont très 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 rapides. C'est différent un peu du football colombien qui est beaucoup plus mis sur le physique. Je pense que ça sera un peu différent de ce qu'on a vu contre le Portugal. Mais je ne crois pas qu'il va trop changer, parce qu'il faut qu'on reste calme, il faut qu'on ait le même mental que contre le Portugal.
sachant que bon, on n'a plus droit à l'erreur pour ce match, hein, parce qu'un match nil nous permettrait de rester encore en vie dans cette compétition et aller chercher peut-être une victoire contre l'Ouzbékistan, ou à défaut, si on perdait ces matchs, ce qui peut arriver aussi, et aller chercher une victoire contre l'Ouzbékistan. Donc, dans les deux figures, nous serons qualifiés, ce soit directement ou soit par les 8 meilleurs perdants. Mais je pense que il va pas trop changer, hein, selon tel que je connais Sébastien, il ne va pas trop changer. On va garder la même philosophie, on va garder le même système. Je crois que pour la titularisation des deux KMB, c'était prévisible, parce qu'il fallait qu'il y ait un milieu de terrain qui sait étouffer les velléités des adversaires et un peu garder les ballons, parce que ça, c'est également la clé. Il ne faut pas jeter toutefois les ballons. Quand vous avez le ballon, vous les jetez, vous vous en débarrassez comme vous voulez. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui...
Un relanceur capable de sortir
pour que nous puissions également mettre un peu de pression sur l'adversaire. Et je crois qu'on va pas trop changer, hein. On va garder les mêmes 11, à mon avis. Et c'est un peu peut-être de jeter dans le match les Meshak, les Bongonda, peut-être vers la fin.
Exaucé, est-ce qu'on doit maintenir... Bon, c'est vrai, comme Héritier l'a dit, nous connaissons des sabres, il est fidèle à ses principes. Faut-il garder le même système avec 3 défenseurs axiaux? Parce qu'en voyant ce système, on comprend très clairement qu'il sacrifie des ailiers. Ouais. Les ailiers n'ont plus de place dans cette équipe de la RDC. Mmh. Face, par exemple, à la Colombie, faut-il aligner un milieu à 3 et lancer des Chimpenga ou des Meshak ou Théo Bongonda pour menacer davantage la Colombie? Rappelons que la Colombie, c'est une équipe capable de souffrir un peu comme la RDC. Elle peut maintenir la pression derrière et attaquer vite comme la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour... s'adapter à un tel adversaire en présence?
Bah déjà, je pense que le match sera équilibré. Parce que c'est, la Colombie, c'est une équipe qui joue un style direct. C'est-à-dire ils n'ont pas besoin des 1000 passes pour arriver jusqu'dans votre surface de réparation. Même avec 2 ou 3 passes, ils peuvent y arriver. Donc, dès qu'ils seront en train de lancer leur offensive et arriver jusque dans la surface de réparation de la RDC, pourtant, la RDC aussi attend pour procéder en contre.
Voilà.
Et ce sera ça, peut-être, la physionomie de ces matchs d'un camp à l'autre tout le temps. Et ça va faire de ces matchs un match riche en occasion. Donc, pour moi, déjà, on ne doit pas changer. Le 11 doit rester le même. Vous allez voir que l'entraîneur, il a même commencé à sortir les joueurs qui vont l'aider pour ces matchs contre la Colombie. Il a sorti Mukau à la 56e minute. Je n'étais pas vraiment d'accord. Bissaka, il est également sorti pour lancer Kalulu. Je ne sais pas pourquoi.
Massoua est sorti aussi.
C'était un changement important, il faut le signaler, parce qu'on a vu face à l'Algérie, Bissaka était à bout et on ne l'a pas sorti. Et ça a payé cash sur les billes algériens. Ouais. Vous vous rappelez, le dernier match de la CAN.
Oui.
Maintenant, quand il a sorti Bissaka, ce changement, je l'ai compris. Je sais que beaucoup de Congolais n'ont pas compris ça.
Non, il a mis Kalulu. Kalulu
ne serait pas capable d'arrêter peut-être Léo comme le ferait Bissaka. Okay. Mais c'était très réfléchi.
Il a mis Kalulu pour envoyer un message à un Kalulu qui était dans le tribunal.
Merci beaucoup, Benji. Benji, Exaucé est revenu sur la façon dont la Colombie joue. C'est une équipe qui joue derrière et qui procède très rapidement en transition rapide face à une telle formation. Est-ce qu'une équipe avec 2 centraux à la pointe peut savoir se sortir du piège? Parce que face à une équipe regroupée derrière, il faut souvent exploiter les couloirs. C'est là qu'il y a la question de savoir, faudra-t-il miser sur un ailier de plus en sortant un milieu ou garder le même dispositif de jeu?
Mais il faut déjà regarder les deux matchs. Je le disais déjà les dimanches passés, lorsque plusieurs critiquaient le match contre la Chili, je disais déjà que les deux matchs, c'était à l'image de ce que,
des
adversaires et de ce que la RDC allait produire durant cette Coupe du Monde. Le premier choix du Danemark, c'était en fait pour évaluer le football européen. Et les Danemark, on a vu que c'était une équipe qui avait battu le Portugal et tout ça. Et il fallait se mesurer à cette équipe avec ce système-là pour voir ce que ça pouvait produire. Les second match face à la Chili, avec ce système DG, c'était aussi pour évaluer le football sud-américain. Et je pense que je vois bien de ça pour ces matchs aligner un 4-3-3.
Malheureusement, ce système a démontré des limites face à l'équipe chilienne.
Pour moi, et comme je le disais déjà, ça n'a pas démontré des limites, mais c'est Sébastien de ça, vous voulez que cette équipe joue dans ce système-là, jouent avec cette intensité-là, dans ces faux rythmes, parce que c'est ce que ces matchs contre la Colombie nous réservent. Alors, moi, pour ces matchs, en tout cas, je vois bien Sébastien Desabre revenir dans son 4-3-3 et utiliser des ailiers qui seront très rapides et qui seront à mesure de faire très mal à la Colombie.
Merci beaucoup, Eric. Vous avez un ajout ?
Oui, je voulais j'étais en train de jeter un coup d'œil sur le système utilisé par, principalement par la Colombie. C'est en 4-2-3-1. C'est un dispositif qui permet donc un pressing haut, un milieu de terrain très dense et physique et des transitions ultra rapides vers l'attaque. Alors là, pour que Desabre puisse un peu contrer, comme le disait Benjamin, il va opter peut-être pour le même système que contre le Chili. Mais attention, comme vous l'avez dit, ça a montré des limites. On a encaissé deux buts. Sur des erreurs, en tout cas, on a senti qu'en milieu de terrain, c'était pas très bon.
C'était pas costaud, c'était
alors, il faut. Est-ce que Sébastien Desavre va opter pour le même 11 que contre le Portugal, ou il va tenter d'injecter des 109 avec peut-être la titularisation de Noah Sadiki, ou si on essaie de voir, oui, ça sur un côté, Bongonda sur un autre, Sadiki derrière Bakambu et juste devant les duo Moutoussami et Mukau, on va voir si ça pourrait marcher, parce que ça sera intense et ça sera très très physique, surtout au milieu de terrain.
Désiré ?
Oui, moi je pense que...
Que faut-il faire ? C'est en fait la même.
Qu'est-ce qu'il faut faire ? Connaissant Desabre, c'est d'abord quelqu'un qui ne veut pas perdre. Au départ, il ne veut pas perdre.
Il a peur.
Ça veut dire on cherche d'abord un match nul. Ça veut dire, soit... Moi je tente de rentrer dans sa tête. Je me dis, soit il va tenter de vouloir aligner la même équipe, soit il va vouloir blinder le milieu terrain avec des milieux défensifs. Peut-être ça aussi. Donc,
Comme face au Portugal.
Ouais, il s'est dit, si je prends un nul contre la Colombie, peut-être que je peux aller chercher l'Ouzbékistan et aligner une équipe qui va aller jouer, qui va dérouler les jeux, qui va chercher une victoire. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais connaissant Desabre, je suis sûr que s'il n'aligne pas trois défenseurs centraux, il va aligner trois milieux très défensifs.
Merci beaucoup, Arkad.
Je pense revenir sur son 4-3-3, ça serait une erreur monumentale. Parce que j'ai eu le courage de suivre la Colombie face à l'Ouzbékistan. Il faut dire qu'ils ont des attaquants plus inspirés, peut-être actuellement, que le Portugal, notamment Luis Diaz. Il y a également Luis Suarez, qui est celui qui marque les premiers buts, j'oublie son nom, face à l'Ouzbékistan. C'est aussi un attaquant qui joue, je pense, au Benfica, si je ne me trompe pas, au Portugal. C'est aussi un attaquant en jambes. Donc, ils n'ont rien à envier à Bruno, à Bernardo Silva, à Neto ou à un vieil sac Cristiano. Donc c'est là que moi je me dis, on doit faire attention. Et je pense qu'il faudra qu'on revienne sur les mêmes 5, les mêmes 3-5-2. Mais pas encore avec Bakambu. J'aimerais qu'il y ait déjà un joueur capable de fournir beaucoup plus Wissa que Bakambu. Parce qu'on a vu, oui, Bakambu il a été.
Ce n'est pas son rôle de fournir à Wissa, il faut rappeler.
Est-ce que c'est que Wissa profite également de la vitesse de Bakambu?
Mais je précise, dans ce système là-bas, la pointe de fixation c'est Bakambu. Et c'est Wissa qui tourne.
Et il sera toujours.
Donc en principe, c'est Wissa qui doit servir Bakambu, au contraire. Même si à un niveau, on a vu Bakambu décrocher, revenir en milieu et d'essayer de servir ses coéquipiers tout autour.
C'est là que moi je pense, comme la plupart d'entre nous ici, qu'il nous faut un ailier dans ces matchs. Un peu percutant. À la Chimpenga, même si on sait qu'il est beaucoup plus mieux comme joker que comme titulaire. On l'a remarqué qu'il fait des belles entrées, qu'il ne commence. Peut-être en club, ça marche quand il commence, mais en équipe nationale, on sait qu'il nous fait du bien quand il entre. Maintenant, la question reste à savoir qui peut accompagner Wiss, qui est plus inspiré que Bakambu. Parce qu'on a vu que ça ne marchait pas.
Hazard ou Maele.
Non, pas Maele. Maele, il est aussi bon comme joker que comme titulaire. Peut-être Banza, parce que Banza est en confiance. On peut tout dire qu'il évolue en Arabie Saoudite, mais on sait qu'il a quand même,
il a fait des bonnes stats là, ces gens.
Exactement, il a marqué.
Oublie d'abord la note de titularisation de Bakambu dans cette équipe. Donc, il faut d'abord oublier ça.
De faire les mêmes.
Il faut le sortir à la 60e.
Même si avec l'expérience,
j'avoue. Tu le sors pas.
Bakambu,
s'il vous plaît.
On sait qu'avec l'expérience, Bakambu sait être au bon endroit et au bon moment. D'où les passes qu'il reçoit souvent.
Merci.
Même s'il arrive parfois.
Mais vous, Maurice, vous pensez que Bakambu a fait son travail?
Oui, on ne change pas l'équipe qui gagne.
Est-ce qu'on a gagné?
Moi, je crois. Oui.
Pour nous, c'est une victoire.
Je te dis, moi, je pense qu'on doit maintenir le même système et on doit maintenir le même joueur dans un premier temps. On n'a pas de joueurs plus meilleurs que ceux qui ont commencé.
Ça, c'est sûr.
Et donc, si on commet l'erreur de permettre ou d'échanger les systèmes et les joueurs, on risque d'être surpris. Jusque-là, on ne sait pas le système que va utiliser la Colombie. Et donc, comme on ne sait pas encore le système, parce que certainement que la Colombie est en train de nous étudier aussi.
C'est ça aussi.
Comme on ne sait pas.
Et la RDC a étudié aussi la Colombie.
Oui, la RDC a étudié aussi la Colombie, mais la RDC ne sait pas ce que va faire la Colombie. Chaque équipe est en train de surprendre. Et aussi peuvent changer le système de jeu. Maintenant, si nous osons changer notre système au motif que nous maîtrisons déjà leur système, nous risquons d'être surpris. Donc moi, je pense avec la même ossature, on peut d'abord maintenir. Et si, au cours du match, il y a des surprises, le coach, comme technicien, il peut voir comment revoir les choses.
Merci beaucoup, Isaac. Vous pensez qu'il faut changer les gardiens?
Si. Pour moi, vraiment, Paulo doit prendre la place de Passi.
Parce que les Colombiens tirent de loin que le Portugais.
C'est ça, le point faible des Passi.
On peut travailler sur son mental.
Passi, c'est un joueur, je ne sais pas. Bon, il est encore âgé, oui. Bon, moins âgé, c'est ce que je voulais dire, mais comme s'il est un peu distrait. Mais un gardien comme Paulo, c'est un gardien vraiment éveillé. Moi, je pense que ce remplacement-là peut payer.
On ne change pas.
Mais
comme
au fait, c'est que moi, je propose qu'on ne change pas l'équipe qui a commencé, sauf les gardiens. Mais, sauf première mi-temps, on observe. En seconde période, il y a lieu d'injecter un petit Benga et puis changer même le système.
Merci beaucoup. Donc, Lydie, vous...
Je pense que vu l'importance de ce match, parce qu'une victoire signifie directement la qualification pour le prochain tour de la RDC, je pense que, comme tout le monde ici, moi aussi j'opte pour les mêmes 11 de départ, y compris les gardiens. Moi, je pense qu'on ne peut pas vraiment à changer. Justement, pourquoi j'ai l'idée, parce que on a jamais vu Paulo commencer, surtout dans
le match comme
ça, c'est vrai. Il fait très bon avec son équipe là-bas, mais en équipe nationale, il est...
Il n'a jamais été baptisé, donc
vous ne
pouvez pas qu'il soit baptisé.
Il n'a jamais été baptisé dans un tel match comme ça, ça serait trop risqué. Je pense qu'on peut commencer avec la même liste, bien sûr, et puis au courant du match, on peut voir comment ça va.
Merci beaucoup.
Oui, justement, beaucoup plus de mental de
passe. Ça, c'est un pari risqué pour des vrais analystes, ce n'est pas comme ça que ça se passe.
Surtout le
Qu'est-ce qu'on reproche à Lionel Passi?
Parce que tout le monde reproche qu'il a encaissé un but à la 6e minute.
Mais tout le monde
qu'il aurait arrêté.
Tout le monde a crié. C'est Arcade de parmi ceux qui ne voulaient pas.
Lui en coupe.
Je vais vous ajouter.
Oui, mais. Mais contre le Portugal, qu'est-ce que vous reprochez à Lionel Passi?
Par exemple.
Parce que le même but qu'il prend, c'est pratiquement le même but que
le
gardien. Et vous verrez, le gardien portugais, il terminera toute cette compétition, mais il ne sera pas changé.
C'est pas le même but quand même.
C'est pratiquement le même.
Le but de Passi, c'est dans la lucarne. Le but du Portugal est évitable. Mais celui de Passi. Non, c'est la lucarne, attention.
C'est pratiquement. C'est pratiquement les mêmes. Donc pour moi, on ne change pas un poste. C'est pour les gardiens. Même pour les grands entraîneurs, ils vous disent il y a des postes où on ne touche pas. C'est comme en défense, vous dites bon, comme Chancel est passé un peu à côté de ce match, on les met derrière.
Parce qu'il suffit juste d'aligner Paulo dans ce match et qu'il prenne un but déjà la première minute. Son mental est foutu.
Il dort la feuille avec Tottenham.
Les gardiens sont remplacés comme ça quand, par exemple, si dans l'hypothèse où Lionel Passi est blessé,
là on peut, comme il a fait avec
et celui qui va réussir, que non, je remplace mon titulaire, je dois prouver que j'avais aussi ma place dans cette équipe.
Merci beaucoup,
Dimitri. Tu vois comment il a intégré Dimitri?
Merci beaucoup, s'il vous plaît, exaucé.
Moi, je pense que Lionel Passi mérite d'être gardien titulaire de la RDC pendant
tout le temps qu'on va faire.
Je me rappelle qu'on était déjà en débat avec Arcade dernièrement sur ces sujets là et moi, je m'étais dit que
les internautes m'ont donné beaucoup plus raison.
Bon, ça, ce sont les internautes. J'ai pas besoin de vous donner raison, parce que les arguments que j'ai avancés sont que vous n'avez pas des points noir des Lionel Passi dans les matchs officiels. Tous ces points noirs figurent dans les matchs de préparation. Pourtant, on n'évalue pas un gardien sur base de matchs de préparation. Un match officiel, il a été très important pour nous, surtout lors de la dernière CAN contre le Maroc. Des tirs qu'il arrête, c'est exceptionnel. Les pénaltys qu'il nous met contre l'Égypte, c'est aussi important pour un gardien de but. Il nous a donné cette qualification, donc c'est très important.
Merci beaucoup. Un point historique, Chemwenge, la RDC marque. Vous êtes historien. Ouais. C'est ce que nous avons associé à cette émission. La RDC marque pour la première fois en Coupe du Monde après le raté de 1974.
Oui, 52 ans. Après, c'est à féliciter parce qu'on a vu une équipe de Léopard à l'époque du Zaïre encaisser 14 buts sans en marquer. Alors, il faudra féliciter l'équipe qui est présente actuellement. Mais nous devons nous dire que si cette équipe elle n'était pas aussi si mauvaise que ce que nous avons aujourd'hui, c'était la meilleure équipe à cette époque.
Elle venait d'être sacrée champion d'Afrique.
En... champion d'Afrique parce que nous venions juste de battre la Zambie.
Et
le Maroc, 3-0. C'était à Kinshasa parce que les Marocains ont refusé de jouer le match retour. Et du coup, nous sommes retrouvés en Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qui a fait que cette équipe puisse échouer? C'est toujours, moi, peut-être ça a changé un peu, parce qu'il y a eu ingérence.
Les à côté du
monde. L'ingérence politique, il y a eu une pression politique, il y a toujours des histoires de malversation, il y a eu les problèmes des fétiches.
Les coachs. Les coachs étaient.
Non. Il faudra vous dire que. À la veille du match contre la Yougoslavie, et les joueurs, c'était un militaire, c'était un major qui jouait dans l'équipe de Bilima, avaient découvert qu'il y avait des magouilles autour de leur prime. C'est ainsi qu'il a révolté alors les joueurs ont refusé de jouer. Il a fallu l'intervention de FIFA, c'est la FIFA qui a donné l'argent pour que ces joueurs puissent jouer. Et ils sont descendus sur le terrain, sans morale, sans quoi.
D'où les 9 à 0.
Et à Kinshasa, Mobutu les attendait. Si vous perdez encore, je vous mets en prison. Alors vous voyez que, sur le plan moral, sur le plan psychologique, l'équipe était déjà marquée. Alors vous imaginez, vous comptez sur des fétiches.
Mais aujourd'hui, c'est un peu différent parce que ce sont les chouchous, par exemple, du président de la République.
Ne vous en faites pas. À cette époque, les joueurs aussi avaient eu ça. Ils ont eu des maisons au niveau des lotissements de Salongo.
Et des villas.
Oui, des villas. Dans ces lotissements de Salongo, ils ont eu des véhicules. Mais c'est une fois en Allemagne que les histoires ont tourné.
Merci beaucoup. Nous sommes en 2026. La Coupe du Monde date de plusieurs années.
Oui, et la Coupe du Monde, l'idée de lancer la Coupe du Monde remonte le 28 mai 1928. C'est à ce moment qu'on lance l'idée de la création d'un championnat mondial. Mais en 1930, il y a Jules Rumet, qui était le président de la Fédération Française de Football, et de surcroît qui deviendra aussi le président de FIFA. C'est celui qui va inspirer, qui va faire en sorte qu'on puisse créer la Coupe du Monde. Et c'est en 1930 qu'il y aura la première Coupe du Monde qui était organisée en Uruguay. Uruguay, et qui était remportée par l'Uruguay. Et par la suite, Jules Rumet a été président de FIFA de 1921 jusqu'à 1954. Il est l'artisan de cette Coupe du Monde. Et après 1930, il y a une autre coupe qui sera organisée en Italie. Et c'était sous la dictature de Mussolini. Et ce qui le fait marquant est que c'est pour la première fois que la radio commence à diffuser un match de la Coupe du Monde. Et en 1938, on voit la Coupe du Monde est organisée en France. Et c'est l'Italie qui va remporter la coupe. Mais en 1934 encore, c'est l'Italie qui va remporter la coupe, que je venais de le dire. Et en 1942-1946, il y a eu suspension à cause de la guerre mondiale. Deuxième guerre mondiale. En 1950, la coupe est organisée au Brésil. Mais malheureusement, tous les Brésiliens s'attendaient à ce que c'est le Brésil qui va remporter. Devant 200 000 personnes. Et c'était l'inauguration des stades qu'on appelle Maracana. Oui, c'est le stade le plus. C'est le stade parmi les stades les plus grands du monde. Oui.
Mais il faut rappeler que chaque Coupe du Monde a sa particularité de par l'histoire. Oui. Par exemple, il y a des règles qui n'ont pas été en 2022, mais qui sont impliquées en 2026.
On va y arriver. Alors, malheureusement, le Brésil perd le match par 2-1. Et en 1958, et la Coupe du Monde est organisée en Suisse. Le Brésil remporte la Coupe sous la conduite de Pelé. À cette époque, il était encore trop jeune, à l'âge de 17 ans. Et le meilleur joueur et le meilleur buteur de cette compétition, c'est Gilles Fontaine, qui était un Français, qui a marqué 13 buts. Je ne sais pas s'il y a un autre joueur qui a déjà marqué 13 buts. Lors de la phase de Coupe du Monde.
C'est une campagne.
Ouais. En 1962.
Claude, je crois, il est arrivé à 11.
Plusieurs éditions. Une seule édition.
Ouais. Une édition, je crois, 9 ou 11.
Ouais.
Alors, en 2006, si ma mémoire est bonne.
En 2006, la coupe était organisée à Chili. C'est encore une fois le Brésil qui remporte la coupe, mais sans Pelé parce qu'il était blessé. En 1966...
On ne revient pas sur toutes les éditions, on retient que chaque édition a sa particularité.
Voilà.
Parce que cette édition a pour particularité de réunir 46 nations... 48 nations,
avec
différemment.
Trois
pays organisateurs. Par exemple, il y a la règle qui consacre qu'un joueur, s'il met la main sur sa bouche, il obtient une carte rouge.
En 70, le Brésil remporte cette coupe qu'on appelait qu'on avait baptisé Jules Rimet. C'était une coupe, et le Brésil venait de triompher, de gagner cette coupe trois fois, et on a donné cette coupe définitivement à l'équipe brésilienne. Mais malheureusement, cette coupe a été volée.
Elle est trouvée dans une poubelle après.
Oui. Vous aussi.
On peut prendre la deuxième partie dimanche.
Alors, oui. Merci beaucoup. Ouais. Merci déjà pour ces éléments. Ouais. Donc, avec la particularité deuxième de chaque édition, dimanche, ouais. En espérant vous retrouver le dimanche prochain pour la suite de ce retour en histoire. Héritier, l'Afrique, nous allons clôturer par ça. L'Afrique a une moisson un peu différente. Il y a la Tunisie qui a été éliminée hier en perdant face à l'équipe du Japon. La Côte d'Ivoire a encaissé un but in extremis à la dernière minute de la rencontre. Pourtant, Ginoula a raté un élément essentiel qui accorderait peut-être à la Côte d'Ivoire une victoire face à la nationale Mannschaft. Le Cap Vert a signé une prestation historique face à l'Espagne. Aujourd'hui, le Sénégal a perdu face à la France, mais toujours dans le parcours. Bref, c'est une équipe... Non, c'est plutôt... un continent africain avec des résultats différents.
Oui, des résultats mitigés pour certaines nations. C'est le Maroc qui nous fait rêver dans cette Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire qui est restée sur une victoire et une défaite. Hier, ils sont vraiment passés à côté. Pourtant, ils avaient très bien négocié le début de ce match contre l'Allemagne. Malheureusement, ils sont tombés sur une équipe allemande expérimentée. C'est aussi ça la beauté de cette Coupe du Monde. La déception sera donc la Tunisie, qui n'aura marqué qu'un seul but, peut-être avant les derniers matchs contre les Pays-Bas. Ça, il faut les souligner. Ils sont déjà éliminés malgré le fait qu'ils se sont fait revenir. Ils ont ramené sur le banc Hervé Renard pour poursuivre avec cette équipe nationale. Bref, ce sont des prestations à demi-teinte. On attend peut-être la deuxième journée pour d'autres formations africaines, mais je suis très optimiste qu'il y aura quand même au moins deux ou trois, minimum trois nations africaines
la Côte d'Ivoire,
à la phase de sixième de finale.
Merci beaucoup, très chers invités. Nous vous souhaitons un excellent dimanche. Au vu, disons, de ce qu'on a déjà vécu, quelles sont les équipes qui vous semblent favorites, Benjamin, africains ou non-africains? Pour vous, quelle équipe vous a déjà impressionné? 30 secondes, ça sera votre conclusion.
Pour moi,
disons 20 secondes.
Oui, pour moi, l'équipe qui m'a le plus impressionné, c'est le Japon. J'ai vraiment aimé les jeux proposés par cette équipe, même si je ne le vois pas. Elle est très loin dans cette compétition. Mais pour ce qui est, en tout cas, du jeu le plus éblouissant, celui du Japon reste très, 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 très beau à voir. Mais le grand favori pour moi, c'est la France.
Désiré, vous avez apprécié les éléphants de la Côte d'Ivoire?
Ouais, beaucoup. Même les Sénégalais, ils ont perdu, mais j'ai adoré ce match. J'ai beaucoup aimé les Sénégalais, la manière dont ils ont abordé le match. Ils encaissent deux buts sur un coup de sort, mais quand même, c'est une bonne équipe sur laquelle il faudra compter. La Côte d'Ivoire, oui, je m'y attendais à cette prestation. Lorsque vous avez un joueur dans son équipe réfléchit 100 millions d'euros, que vous êtes ivoirien, vous dites, vous tenez quelque chose, il a fait ce qu'il a fait. Mon favori, en tout cas, ça reste le Portugal.
Exaucez votre favori. Le Brésil?
Non, l'Espagne. J'en aurais peut-être deux, l'Espagne et l'Argentine, mais beaucoup plus l'Argentine qui a démontré des belles choses lors de la première journée. L'équipe continue toujours à jouer pour Messi, ils essaient de s'adapter à Messi, son âge et tout, pendant qu'au Portugal, on cherche que Cristiano s'adapte à l'équipe.
Mais c'est les Portugais.
J'ai été très content jusque-là du contenu que propose la Côte d'Ivoire. Également, bien sûr, on a suivi la RDC quand quand même qui est également sorti de l'ordinaire.
Wow,
donc, également pour moi, les grands favoris, c'est la France et l'Argentine.
Merci beaucoup, vous également.
Oui, Expedi, en tout cas, moi, sincèrement parlant, j'ai eu à suivre les matchs des grandes équipes. Ouais. J'ai suivi l'Allemagne, j'ai suivi la France, j'ai suivi l'Angleterre, j'ai suivi le Brésil. Je vous rassure que je suis convaincu que la meilleure équipe pour moi, en termes de jeu maintenant, reste le Maroc.
Merci
beaucoup. Et soyez rassurés que le Maroc va surprendre.
Merci beaucoup. Arcade,
moi je suis
et Polo, on a mis de côté.
Ouais.
Vous avez la possibilité de revenir à travers cette dernière prise de parole.
Parce que moi, je ne comprendrai jamais les principes selon lesquels, pour être titulaire au sein de l'équipe nationale, il faut avoir passé 5 ans déjà au sein de l'équipe nationale. Pourtant, on sait qu'il y a des nations comme le Maroc qui intègrent des joueurs à cette Coupe du Monde.
Nous avons parlé du gardien
des sociétaires des îles, notamment avec les gardiens des 8. Et Polo nous a montré ses limites, notamment même face aux Chiliens. D'où les remplacements qui intervient même à la 76e minute, à la 96e minute, pardon, on l'a constaté. Et pour moi, on ne doit pas se contenter de continuer avec un gardien moins inspiré comme Passy qui termine toute une saison sur les bas des touches.
Merci.
Pour moi, mon favori, je reste convaincu que cette Argentine peut faire un back-to-back parce que ce qu'ils ont affiché, bien sûr, face à la Russie, mais on a vu que c'était une union sacrée autour de Lionel Messi. Ouais. Je pense qu'ils sont capables de faire du mal.
Merci.
Et puis, sur le continent africain, ça va peut-être vous surprendre, je sais, mais la meilleure défense fait gagner de compétition. Je ne dis pas qu'on peut gagner cette compétition, mais je pense qu'on peut aller très loin.
Merci beaucoup, Isaac.
En fait, au niveau africain, les équipes qui vont aller loin, ils aiment laisser le Maroc. Voilà. Mais les plus grands favoris ici, j'en ai 3. Donc, il y a l'Argentine, il y a la France et le Portugal.
Merci beaucoup, Héritier. Nous terminons l'émission de ce jour.
Voilà, merci donc à tous les amis qui nous ont suivis dans cette émission Sport pour tous, avec un accent particulier sur la Coupe du Monde. Je dis merci à Maître Maurice et à notre évier, à Tchemouingue, qui ont accepté pour la première fois de participer à cette émission. On espère qu'on sera ensemble durant cette Coupe du Monde pour nous analyser, n'est-ce pas, les faits d'actualité, notamment avec les Léopards de la RDC. Bonne chance à notre équipe nationale. On espère que, bon, c'est une fierté pour toute la nation, que vous soyez de la majorité, de l'opposition, de la gauche, de la droite, du centre, du sud. Nous tous, on se retrouve, n'est-ce pas, dans cette équipe nationale. Il suffit d'avoir vécu l'effervescence qu'il y avait dans la ville après ce match nul contre le Portugal. Ça veut dire que le symbole national, c'est donc notre équipe nationale. Et nous espérons que les garçons vont continuer à nous faire rêver dans cette Coupe du Monde.
Programme d'aujourd'hui, Espagne, Arabie Saoudite, 18h. Belgique, Iran, 21h, Uruguay, Cap-Vert à 0h, et demain déjà à 3h, la Nouvelle-Zélande sera sur le terrain. Donc, merci donc à vous, très chers auditeurs, pour l'attention soutenue. Nouvelle-Zélande, Égypte, très chers invités, nous vous disons merci. Passez donc un excellent dimanche à Nice à Concours, assurer la mise en onde. Au revoir.